Bien, je vois que ce nouveau catéchisme a autant de succès à Écône qu'ailleurs, semble-t-il, puisqu'il se vend d'une façon extraordinaire. C'est une affaire commerciale assez exceptionnelle. Et c'est d'ailleurs, je pense, une des premières réponses à la question posée. Est-ce que ce catéchisme est catholique? Je pense que s'il était vraiment catholique, il n'aurait pas droit à une telle publicité de la part de tous les médias, les agences de presse, les affiches, les placards publicitaires, etc. On a rarement vu le monde, faire tant de publicité pour un catéchisme catholique. Bon, enfin, cela dit, ce n'est pas probant suffisamment. Donc ce catéchisme qui s'intitule « Catéchisme de l'Église catholique », que donc voici, vous voyez, qui est un pavé de 600 et quelques pages, a été présenté dans sa version française, langue française, le 16 novembre, que ce soit ici en Suisse ou à Paris, et a été présenté ensuite, promulgué de façon officielle par le pape Jean-Paul II, le 8 décembre, à Rome. Bon, nous pourrions déjà peut-être un peu nous poser des questions sur cette diffusion en français avant la promulgation officielle, mais cela est une question un peu annexe qui n'est pas très importante. Et dans l'étude du catéchisme que nous ferons aujourd'hui, il est évident que je pars quant à moi du principe évident que lorsque le pape parle ou lorsque le cardinal Ratzinger parle, il ne parle pas pour ne rien dire. Il pèse chacun de leurs mots. Et donc, chacun de leurs mots est à considérer avec attention, dans son sens obvie, son sens normal. Je pense qu'il n'y a pas de distraction ou d'erreur de langage ou de lapsus, etc. Quand le pape parle, il sait tout à fait ce qu'il dit. Et un catéchisme, en plus, un catéchisme qui donc nous est présenté comme le monument, pratiquement, du pontificat de Jean-Paul II, qui a été travaillé pendant des années et des années, eh bien ce catéchisme, qui donc veut nous proposer la foi de l'Église, très certainement également, ne parle pas pour ne rien dire. Et chaque mot a été pesé. Chaque mot compte. Et chaque mot est à prendre donc dans son sens normal, son sens, je dirais, courant. Ouais, sans se dire, mais non, c'est pas ça qu'ils ont voulu dire. Il faut regarder ce qu'ils ont dit, c'est tout. Quand on fait un catéchisme, c'est pour enseigner la foi, donc les mots sont employés de façon claire, simple, normalement, sans équivoque, sans ambiguïté, etc., etc. Bon, moi, je pars donc de ce principe, qui est un principe bienveillant, à savoir que je n'interprète pas la pensée, mais je prends les mots, les phrases, les propositions, ben, dans leur sens le plus évident, celui qui va apparaître à l'esprit des fidèles ou des prêtres ou des évêques, je ne sais moi, qui liront ou qui ont lu ce catéchisme. Alors, si vous avez lu un peu la presse depuis le mois de novembre, on a beaucoup parlé de ce catéchisme. Tout le monde se dispute un peu pour savoir est-ce qu'il est traditionnel, est-ce qu'il n'est pas traditionnel, est-ce qu'il est conciliaire, est-ce qu'il n'est pas conciliaire, ceci, cela, bon, oui, est-ce qu'il est conforme à la tradition ou est-ce qu'il est plutôt conforme au concile, etc. Enfin, or là-dessus, bon, je laisserai un petit peu discourir tous ceux qui en ont parlé et semble-t-il bien souvent après une lecture un peu trop hâtive. Ce catéchisme est sorti maintenant depuis 2 mois. Et le 8 décembre, nous avons eu droit à des présentations tout à fait officielles, authentiques, et donc les seules, finalement, il y aurait les seules présentations, les seuls commentaires qui soient véritablement autorisés, qui sont les présentations du pape lui-même et celles du cardinal Ratzinger. Voilà. Donc, dans un premier temps, moi, je vous propose tout simplement eh bien, de nous référer un peu à ce qu'en a dit le pape lorsqu'il a présenté ce catéchisme à l'épiscopat et à l'Église, et ce qu'en a dit ensuite le cardinal Ratzinger. Bon, ces textes-là ont été publiés dans l'Osservatore Romano, donc tout à fait officiel, tout cela est public, et c'est donc, dans un premier temps, c'est ces textes-là que je vais considérer un peu, parce que c'est cela qui va nous donner, finalement, l'esprit de ce catéchisme. Vous voyez, qu'est-ce que le pape a voulu faire en nous donnant ce catéchisme? Qu'est-ce que le cardinal Ratzinger a voulu nous enseigner en présidant à la rédaction de ce catéchisme? Vous voyez, C'est un catéchisme qui est déroutant, c'est très déroutant, car il est très beau. On pourrait dire d'abord, si vous voulez, que c'est un poème. C'est un magnifique poème. Et d'ailleurs, certains articles de journaux le présentaient comme une symphonie, la symphonie de la foi. Alors, c'est vrai, c'est un peu une symphonie, ouais, symphonie, mais nous verrons qu'elle est peut-être un petit peu discordante. Elle n'est pas tout à fait... C'est pas le répertoire tout à fait classique, vous voyez, c'est plutôt un peu de la musique moderne avec des accords qui vous écorchent, non pas les oreilles, mais la foi, ce qui est beaucoup plus embêtant. Donc effectivement, c'est une sorte de poème. Il y a des passages qui sont magnifiques, des envolées qui sont splendides. Ah, mais c'est sûr, il y a des passages où on est en pleine catholicité. C'est extraordinaire. En plus, c'est beau, il y a des pères de l'Église, il y a l'Écriture sainte, il y a même les saints, des auteurs de... Des passages des écrits des saints, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean de la Croix, il y a des passages magnifiques, et devant lesquels, vraiment, on n'a qu'une chose à faire, c'est nous agenouiller, mais alors, pouf, vous tournez la page, après, Donc, catéchisme un peu déroutant, parce qu'on ne sait jamais très bien où on en est, et je vous avoue, moi, je l'ai pas mal travaillé, pas mal étudié, il y a des moments, je m'arrêtais et j'allais prendre un bain de catéchisme de Concile de Trente pour retrouver un peu mes esprits, très déroutant. Et à séduire les élus eux-mêmes. Donc je dirais catéchisme déroutant et dangereux précisément pour cela. Oui. Alors quels sont justement, si vous voulez, ces points de repère que le pape et le cardinal Ratzinger nous donnent quant à ce catéchisme? Alors d'abord, si vous voulez, ce discours du pape le 7 décembre, la veille donc de la fête de l'Immaculée Conception, quand il présente ce catéchisme. Que nous dit-il? Nous voulons savoir, certains se sont posé la question, est-ce que c'est le catéchisme du Concile, ou est-ce qu'il est plutôt traditionnel, puisqu'il rappelle, regardez, tous ces rappels traditionnels, la peine de mort, ceci, oh, quand même, ça y est, l'Église revient à la tradition. Qu'en pense le pape? Eh bien, il nous parle, par exemple, le soin que vous avez apporté à la présentation des contenus de la foi de façon conforme à la vérité biblique, à la tradition authentique de l'Église et en particulier aux enseignements du Concile Vatican II. Bon, deuxième point, je ne fais que vous dire un peu ce que le pape a dit, hein, c'est clair cela. Ensuite, il nous parle du catéchisme de l'Église catholique qui est un instrument qualifié et autorisé. Donc, instrument qualifié et autorisé. Donc, c'est quelque chose d'important, cela. Le pape donne à l'Église un instrument qualifié et autorisé pour définir et enseigner la foi. Donc, ce n'est pas un accident de parcours, si on peut dire. Vous voyez, ça ne vient pas comme cela, comme un cheveu sur la soupe. Ensuite, il nous dit que la publication du texte doit sans aucun doute se placer parmi les événements majeurs de l'histoire récente de l'Église. Événement majeur de l'histoire récente de l'Église. Ensuite, ah, ça c'est intéressant, ça. Intéressant. Le catéchisme, donc il parle de la vérité, c'est un don véridique, ce catéchisme. C'est un don, d'abord, hein, ça c'est clair. C'est un don véridique et il expose cette vérité à la lumière du Concile Vatican II. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais il y a quelque temps, quelques années, on essayait d'obtenir de Mgr Lefebvre qu'il accepte le Concile Vatican II à la lumière de la tradition. Vous rappelez cela? Et Mgr disait oui, peut-être. Bon, il disait pas non, mais enfin. Donc, il s'agissait à l'époque d'interpréter le Concile à la lumière de la tradition. Eh bien, aujourd'hui, ce catéchisme nous expose la vérité traditionnelle à la lumière du Concile Vatican II. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, de quoi s'agit-il encore? Bon, nous allons passer un peu, parce que sinon, vous allez rester un peu trop longtemps. Ah, oui, ce passage-là qui est beau, ça. Vous voyez, c'est qui montre bien. Et effectivement, nous retrouverons cela tout à l'heure, quand nous lirons quelques passages du catéchisme, oui. Ce catéchisme peut constituer un appel affectueux pour tous ceux qui ne font pas partie de la communauté catholique. Un appel affectueux pour tous ceux qui ne sont pas catholiques. Donc, puissent-ils comprendre que cet instrument ne réduit pas, mais élargit le cadre de l'unité multiforme? Il élargit le cadre de l'unité multiforme. en offrant une nouvelle impulsion au chemin vers cette plénitude de la communion qui reflète et d'une certaine façon anticipe l'unité totale de la cité céleste. Donc il s'agit, ouais, d'ouvrir, d'élargir un peu l'unité de l'Église. Bon, comprenez ce que vous voudrez, mais enfin, en tout cas, il s'agit donc d'un élargissement. Ouais. Et je ne sais pas si, ça vous, si vous remarquez que dans tout cela, ben, je dirais la foi, on n'en parle pas beaucoup. C'est dommage, mais enfin, bon. Ouais. Donc, élargir le cadre de l'unité multiforme. Ensuite, ça aussi, vous voyez, tout ça, ces points-là me paraissent importants. Les hommes d'aujourd'hui et de toujours ont besoin du Christ, c'est vrai. À travers des voies multiples et parfois incompréhensibles, ils le cherchent avec insistance, l'invoquent constamment, le désirent ardemment. Bon, qu'ils aient besoin du Christ, oui, ça c'est vrai, mais qu'ils l'invoquent constamment. Bon, je ne sais pas de qui on parle, en tout cas, mais que tous les hommes le fassent, ça, c'est à voir. Et ce catéchisme, encore, nous dit le pape, doit constituer le point de référence, la magna carta de l'annonce prophétique et surtout catéchétique. Oui, donc c'est important, hein, ça. Maintenant, il ne s'agit plus d'aller chercher la vérité ailleurs, la vérité, elle est là. C'est là le point de référence et la charte obligatoire. Vous voulez être catholique, eh bien, vous devez obligatoirement vous référer à ce catéchisme. Voilà. Oui, donc, dans l'esprit du pape, ça, c'est quelque chose d'important, ce catéchisme. Hein. Quelque chose de très, très, très important. Le lendemain, 8 décembre, une homélie au cours de la messe à Sainte-Marie-Majeure, et le pape, donc... Voici ce qu'il dit au sujet de ce catéchisme. L'Église remercie aujourd'hui pour le don du Concile. Bon, très bien. Et la communauté des croyants remercie aujourd'hui pour le catéchisme post-conciliaire. Ah, jusqu'ici, nous en étions restés à l'Église conciliaire, et nous voici arrivés maintenant au catéchisme post-conciliaire. Mais le pape qui parle toujours. Hein. Attention, ce ne sont pas du tout des interprétations personnelles. Hein. Donc, le catéchisme post-conciliaire. Alors, bon, si, quand certains me disent il est tout à fait conforme à la tradition, je me permets de dire, mais est-ce que c'est vraiment l'avis du pape, hein? Apparemment, ce n'est pas tout à fait ce qu'il nous dit. Catéchisme post-conciliaire, qui constitue un compendium de la vérité annoncée par l'Église dans le monde entier. Il constitue le fruit... Il constitue le fruit le plus mûr et le plus complet de l'enseignement conciliaire. Oui, c'est beau ça, hein, c'est bien. Le fruit le plus mûr et le plus complet de l'enseignement conciliaire. Voilà. Et c'est vrai, c'est une synthèse magnifique du concile. Hein, jusqu'ici, le concile, on a du mal à s'y retrouver parce qu'il y a toute une foule de textes, de documents, de décrets, de constitutions. Bon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont lu tous ces textes du Concile. Tout à l'heure, on s'y perd. On ne sait plus très bien. Et quand on nous parle de l'esprit conciliaire, bon, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Mais voilà, maintenant, vous l'avez à la portée de la main. C'est un peu cher, 45 francs, je crois, quelque chose comme ça. Hein, bon, peut-être, mais malgré tout, on y arrive, quoi. Voilà. Voilà, chaque foyer catholique, maintenant, aura à la portée de la main, tu sais, eh bien, la loi de l'Église conciliaire. Hein, voilà. Le fruit le plus mûr et le plus complet de l'enseignement conciliaire. Avec le catéchisme post-conciliaire, vous voyez, il revient toujours dessus, hein, le catéchisme post-conciliaire, compendium de l'unique et éternelle foi apostolique, gardée et enseignée, etc., etc. Voilà, donc, si vous voulez, ces deux grandes déclarations du pape à l'occasion de la promulgation de ce catéchisme. Il y a encore un point, peut-être, ça peut être intéressant, oui. Et tous ensemble, nous déposons le nouveau catéchisme de l'Église catholique. Ah, nouveau. C'est le pape qui dit qu'il est nouveau. Mais ce n'est pas moi. Le nouveau. Alors, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est traditionnel? Bon, à voir. Donc, le nouveau catéchisme de l'Église catholique, qui est en même temps le don du Verbe révélé à l'humanité, c'est un don du ciel. Alors, peut-être une inspiration divine, je ne sais pas. Donc, qui est en même temps le don du Verbe révélé à l'humanité et le fruit du travail des évêques et des théologiens. Donc, c'est le fruit d'une collaboration, ouais, entre le Saint-Esprit, entre le Verbe révélé et le travail des hommes, fruit de la terre et du travail des hommes. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être, ça, pour commencer. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, mais c'est exactement la même démarche. Oui. Bon, enfin, passons. Alors ça, c'est le pape qui parle, donc c'est quand même important. Hein. Voilà, moi je pense que ça nous met bien en place, si vous voulez, la place, on peut dire, ça nous met bien en place, donc ce catéchisme-là. Hein. Voilà, ce n'est pas un accident de parcours, c'est une chose très, très importante. Oui. Alors ensuite, le cardinal Ratzinger, toujours présentation officielle, toujours publiée par l'Osservatore Romano, qui est, alors lui, beaucoup plus éclairant, lié sur le fond même, ouais, la doctrine, le fond de la doctrine enseignée par ce catéchisme. Alors c'est un article assez long, je ne prends que des passages, bien sûr. C'est toujours un leitmotiv actuellement dans tous les discours des grands prélats de Rome. Toujours ce drame devant lequel il semble se trouver de la chute des idéologies. Vous voyez, tout s'effondre, à droite, à gauche, à l'est, à l'ouest, tout s'effondre, la chute des idéologies, et ils ont l'impression d'être comme devant un vide. Ben, non, nous on n'a pas le vide, on a l'Église catholique, qui est toujours là, elle ne bouge pas, elle, en principe du moins. Alors après la chute des idéologies, le problème de l'homme, voilà, le problème moral se pose aujourd'hui et de façon totalement nouvelle à l'ordre du jour, que devons-nous faire, etc., etc. Voilà. Alors ce catéchisme, eh bien, voilà, on se demande un peu, mais est-ce que c'est vraiment un livre de morale ou est-ce que c'est vraiment un catéchisme qui enseigne la foi? Eh bien la réponse est, il est cela, il est un livre de morale, oui, mais aussi quelque chose de plus. Il parle de l'être humain. Catéchisme, il parle de l'être humain. Moi, je ne sais pas, mais j'avais dans l'idée que catéchisme devait parler de Dieu. Bon, enfin, il parle de Dieu aussi quand même, hein. Faut pas être trop méchant, mais enfin, il est quelque chose de plus. Donc il parle de l'être humain, mais avec la conviction que la question sur l'homme ne peut être séparée de la question sur Dieu. Ce qui veut dire qu'on va parler de Dieu, mais pour pouvoir mieux parler de l'homme. Pour bien parler de l'homme, eh bien, il faut parler de Dieu. Sinon, on ne comprend pas l'homme. Ce n'est pas faux. C'est sûr que pour bien comprendre l'homme, il faut savoir ce qu'il est, d'où il vient, et son créateur, etc. C'est vrai. Mais le problème, est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est Dieu? Oui. Il y a là une perspective qui ne me paraît pas tout à fait habituelle, en tout cas. Mais on ne parle pas correctement de l'homme si on ne parle pas aussi de Dieu, etc., etc., etc. En effet, l'information fondamentale sur l'homme dans le catéchisme est ainsi formulée. L'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Oui, mais c'est toujours l'homme. Ouais. Alors là, on pourrait faire une petite remarque. Hein. L'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Les pères de l'Église, là-dessus, discutent un peu. L'image de Dieu, traditionnellement, c'est notre nature intellectuelle, spirituelle. Bon, l'image de Dieu, nous avons une intelligence et une volonté, très bien. Mais la ressemblance avec Dieu, ça, c'est la grâce. Attention, hein, c'est la grâce qui imprime dans l'âme, justement, cette ressemblance avec Dieu, qui nous fait fils de Dieu, et à ce moment, nous ressemblons à Dieu, oui. Alors que par nature, nous ne sommes que l'image de Dieu. Différent, ça, c'est tous les pères de l'Église sont pratiquement unanimes là-dessus. Eh bien, le cardinal Ratzinger, lui, nous dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bon. Préfet de la doctrine, de la congrégation de la doctrine de la foi, hein. Je crois qu'il sait ce qu'il dit, hein. Il sait ce que les mots veulent dire. Hein. Alors donc, l'homme... Cette perspective centrale, sur elle se fondent les droits humains qui sont caractéristiques de la personne humaine, passant. Et ensuite, eh bien, c'est le grand, je dirais, sujet, hein, qui préoccupe notre cardinal. Eh bien, c'est que sur la ressemblance avec Dieu se fonde donc aussi la dignité humaine, la dignité de l'homme, qui demeure intangible dans chaque homme, justement parce qu'il est un homme. Donc, dignité intangible, parce qu'il est un homme. Intangible, c'est que ça ne bouge pas, on ne peut pas y toucher. Et personne ne peut rien faire, ne peut enlever à l'homme sa dignité. Pas même l'homme lui-même. Cette dignité, l'homme l'a par nature et il la gardera jusqu'à la fin. Bon. Donc, dignité intangible dans chaque homme. Ensuite, l'unité et l'égalité des êtres humains. unité et égalité des êtres humains, et tous ont une égale dignité. Tous sont unis réciproquement par un lien fraternel, tous responsables l'un de l'autre et appelés à aimer leur prochain quel qu'il soit. Là, vous avez une parfaite synthèse du catéchisme. Ouais. Dignité intangible, égale pour tous, et tous sont unis réciproquement par un lien fraternel, responsables l'un de l'autre et appelés à aimer leur prochain quel qu'il soit. Voilà. Dignité, égalité, fraternité, etc. Solidarité, même une vertu nouvelle que je ne connaissais pas, qui est la vertu de solidarité, qui apparaît dans ce catéchisme. Nous verrons cela. Ensuite, que nous dit-il encore ? Donc, il s'agit de l'homme, bien sûr, hein, égale dignité. Ensuite, il nous parle de l'exigence du bonheur. L'exigence du bonheur fait partie de notre nature. Exigence, c'est un mot qui dit ce qu'il veut dire. Hein. Qu'il y ait dans notre nature les désirs du bonheur. Oui, ça c'est clair. Hein. Tout homme désire naturellement le bonheur. Mais l'exigence du bonheur, ça veut dire que c'est un dû. Le bonheur m'est dû. Est-ce qu'il m'est dû le bonheur ? Est-ce que Dieu doit obligatoirement, en justice, me donner le bonheur ? À voir. Alors, est-ce qu'on peut parler d'exigence du bonheur ? On parlait, bien sûr, jusqu'ici, plutôt de désir du bonheur. Ça, c'est clair. Oui. Alors, ensuite, la morale, justement, cette fameuse morale dont on nous parle. La morale a son point de départ dans ce que le Créateur a déposé dans le cœur de chaque homme. L'exigence du bonheur et de l'amour. Voilà quel est le point de départ de la morale, ce que le Créateur a déposé dans le cœur de chaque homme, l'exigence du bonheur et de l'amour. Le comportement moral, dit-il encore, est un comportement à la mesure de la création. Attention, de la création. Et non pas de la rédemption, hein, non pas de la grâce, non pas de l'ordre naturel, mais de la création. Bon, c'est ce qu'on peut appeler une morale naturelle, tout simplement. Oui. Un comportement encore à partir de ce qui a été placé dans notre être par le Créateur. Et oui, il insiste là-dessus. Donc, ce n'est pas un accident, ça. Il sait très bien ce qu'il dit. Donc, la morale, elle a son point de départ dans l'ordre naturel, simplement. C'est une morale naturelle, c'est un naturalisme religieux, pseudo-religieux. Oui. C'est cette répétition en plus, oui, il insiste là-dessus, c'est très très significatif. Hein. Comportement moral à la mesure de la création. Et quel est le cœur de toute morale ? Eh bien, c'est l'amour. Et l'amour avec un petit a. En suivant toujours cette indication, l'amour, donc, on rencontre inévitablement le Christ, l'amour de Dieu fait homme. Alors, ma foi, aimez et vous rencontrerez le Christ. Aimer à partir de ce qu'il y a dans votre nature, hein, puisqu'il s'agit simplement d'une morale à la mesure de la création, aimer à partir de ce qu'il y a dans votre cœur, là, naturel, etc., sans faire appel à la grâce, voyez, et vous rencontrerez le Christ. Et vous voyez, ça vous explique une foule de choses, tout cela. C'est très clair, tout ça. Tout c'est clair, à la limite. Voyez. Pourquoi aller embêter les musulmans, encore, puisqu'ils aiment ? Pourquoi voulez-vous les enquiquiner encore avec je ne sais pas quoi, toutes vos histoires, fichez-leur la paix, laissez-les aimer, puisque l'amour va les conduire inévitablement à la rencontre du Christ. Alors laissez faire l'amour. Bon. Je tire pas beaucoup, hein. C'est là-dedans. Hein. Et nous le retrouvons dans le catéchisme. Eh oui. Nous le retrouvons dans le catéchisme. Voilà, bon, je passe un petit peu. Il y a d'autres points encore dans cette présentation du cardinal Ratzinger. Mais il y a un autre point important. C'est une dépêche de Lapic. Vous connaissez Lapic. Si je la retrouve, ma dépêche. C'est une déclaration, justement, du cardinal Ratzinger, quelque temps après, où on l'interroge, parce que, bien sûr, ce qui a fait un petit peu hurler tous nos bons clercs progressistes, c'est la peine de mort. Hein. Oui, c'est un bon catéchisme traditionnel qui rappelle la légitimité de la peine de mort. Ouais, dans certains cas, les gouvernements ont tout à fait le droit d'appliquer la peine de mort. Oh, scandale, bien sûr, scandale. Alors, question posée, le 9 décembre, au cardinal Ratzinger, voilà, le nouveau catéchisme maintient la possibilité pour l'autorité publique légitime d'infliger la peine de mort. Et à ce propos, c'est le cardinal qui parle, la discussion doit continuer, et c'est bien ainsi. Ce dernier, continue la dépêche, donc le cardinal, ce dernier n'exclut pas que l'opinion de l'Église connaisse encore des développements au sujet de la peine de mort, dans un sens qui s'éloigne de plus en plus de l'enseignement traditionnel dans ce domaine. Bon, alors qu'est-ce que j'en fais de ce catéchisme, moi, dites-moi. Qu'est-ce que j'en fais? Si ce qu'il y a de bon, finalement, est remis en cause 2 jours après par le cardinal, le 9 décembre, c'est déjà remis en cause ce qu'il y a de bon. Alors, qu'est-ce qui va en rester dans 6 mois ou dans 1 an de ce catéchisme? Bon, je ne sais pas. Ensuite, un autre, ça c'est un peu plus récent, c'était il y a quelques jours, l'Osservatore Romano du 17... j'ai oublié la date. L'Osservatore Romano qui donne un texte de Mgr Schönborn. Bon, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'était un des maîtres d'œuvre de ce catéchisme, un des théologiens qui a été le maître d'œuvre de ce catéchisme. Et voici ce qu'il nous dit. Oui, ce sont des choses intéressantes, tout cela. C'est un texte clé du catéchisme qui fait référence à un texte clé de Vatican II, très souvent cité par le pape Jean-Paul II. Donc voilà, quel est le texte clé, oui, qui de ce catéchisme, donc, qui est un autre texte clé souvent cité par Jean-Paul II. Tout ce que le Christ a vécu, il faut que nous puissions le vivre en nous. C'est vrai. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Voilà le texte clé. Et là, je crois qu'avec ça, vous avez tout. La dignité de l'homme, intangible, égale pour tous. Oui. Bon. Et ensuite, oui, cette perspective, alors ça qui est une rengaine, si on peut dire, excusez-moi le terme, mais enfin dans la bouche de Jean-Paul II, à savoir que par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme, vous avez tout le nouveau catéchisme. Voilà. Mais tout le fond, le cœur du catéchisme est là. Oui. Alors nous y reviendrons sur ces choses-là, hein, si je ne m'attarde pas trop sur ces prémices, mais ça me paraît quand même important. Encore un autre texte, là, de Mgr Honoré. Mgr Honoré, qui est un évêque français, de je ne sais plus très bien où, enfin peu importe, qui a été un des rédacteurs, je crois le seul rédacteur de l'épiscopat français, rédacteur de ce catéchisme, voyez, qui nous dit ceci. Est-il téméraire de penser que, par ses dimensions et sa visée, l'ampleur et la durée de l'effort rédactionnel qu'il a exigé, le catéchisme de l'Église catholique constitue l'un des actes majeurs, l'acte majeur du pontificat de Jean-Paul II? Celui-ci n'a pas caché toute l'importance et toute la signification qu'il lui attache. Alors moi, je suis persuadé, moi, voyez, que ce catéchisme-là, cette promulgation du catéchisme, est effectivement, comme le dit le pape et comme le disent tous, là, l'événement le plus important, peut-être un événement encore plus important même que le concile. Bon, ça serait à voir un peu, parce que vraiment, il met à la portée de tout le monde le poison. Tout le monde peut s'empoisonner comme il le veut, sans difficulté, et même d'une façon agréable. C'est un poison très, 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 très sympathique. C'est beau, c'est vrai, c'est beau. Je pourrais vous en lire des pages qui vous feraient pleurer de bonheur. Et vous avaleriez le poison comme ça, sans vous en apercevoir. Extraordinaire. Très bien fait. Très bien fait. Ouais. Alors, si nous pouvons déjà apporter peut-être une première conclusion, avant de regarder, de parcourir un peu rapidement le catéchisme, eh bien, c'est que la vérité, oui, simplement extrait de ces propos du pape, du cardinal Ratzinger, etc., oui, eh bien, c'est que la vérité fondamentale, finalement, oui, et cette vérité qui devient obligatoire, eh bien, c'est que le monde, la création, et la création dont nous parle le cardinal, l'homme dont nous parle le cardinal, eh bien finalement tout cela est naturellement, d'une certaine façon, en état de grâce, en état d'amitié avec Dieu. Voilà. Oui, c'est une sorte d'hérésie nouvelle ou d'erreur nouvelle, bon, ne sont peut-être pas trop sévères, oui, d'erreur nouvelle, oui, qui distingue effectivement d'un côté la création et de l'autre côté la grâce. parce qu'on vous parle de la grâce, on vous parle de la création, très bien, mais qui, pratiquement, de façon concrète, vous voyez, là, dans la pratique des choses, eh bien, considère que les deux choses sont mêlées. Mais Dieu donne pratiquement, presque naturellement, la grâce à l'univers et à l'homme, et à tout homme, d'une certaine façon. Alors, avec d'une certaine façon, on dit tout. Parce que ce d'une certaine façon, vous le trouvez tout le temps et partout, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ce qui permet justement de se tirer d'affaire, hein, devant toutes les objections. Mais on l'a dit d'une certaine façon. Donc, attention, il faut bien interpréter, il faut comprendre dans quel sens on l'a dit. Ouais, d'une certaine façon. Eh bien, moi, je dis que, dans leur esprit, et je ne crois pas me tromper, précisément, l'homme, le monde, la création est naturellement dans un certain état de grâce et d'amitié avec Dieu. Vous avez un texte de ce catéchisme qui est un texte ancien, tiré du document de Puebla, la déclaration de Puebla. Oui, ce n'est pas pour rien que ce document est cité, qui vous dit cela. Écoutez bien, c'est cette sagesse est un humanisme chrétien qui affirme radicalement la dignité de tout être comme fils de Dieu. Vous entendez bien, hein? La dignité de tout être comme fils de Dieu. Alors, est-ce que les mots ont un sens? Hein? La dignité de tout être, non? Comme fils de Dieu. Tout être est fils de Dieu. Et bien donc, tout être est en état de grâce. Celui qui n'est pas en état de grâce, il n'est pas un fils de Dieu. L'adoption filiale, elle se fait par la grâce. Nous devenons fils de Dieu par le baptême. C'est la grâce qui nous fait fils de Dieu, non? Bon, enfin, bonne théologie, moi, c'est ce que j'ai toujours appris au catéchisme, etc. C'est la grâce qui nous fait fils de Dieu. Eh bien, voilà, la dignité de tout être comme fils de Dieu. Donc, tout être est en état de grâce, d'une certaine façon. Bien sûr. Alors, bien sûr, le péché originel existe. C'est vrai, on vous en parlera du péché originel. Et bon, quant aux conséquences, nous verrons un petit peu ce qu'il faut en penser, mais Dieu a tellement multiplié les interventions salvatrices, l'alliance avec Noé, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, Jésus-Christ, et bien que finalement, ben ça y est, quoi, tout homme finalement a retrouvé l'amitié avec Dieu. Donc il y a eu le péché originel, c'est vrai, alors tout homme est un peu affaibli, c'est vrai, le péché originel a des conséquences quand même, mais Dieu veut tellement le salut de tout homme, Dieu veut le salut de tout homme, Dieu peut sauver tous les hommes, donc Dieu doit sauver tous les hommes. C'est cela qu'il pense. Hein. Donc Dieu doit sauver tous les hommes. C'est une exigence. Exigence de notre nature, exigence du bonheur, exigence de l'amour. Donc Dieu doit nous donner la grâce pour être heureux. C'est une exigence de notre nature. Ouais, Et finalement, vous savez, au-delà des erreurs de l'œcuménisme, de la liberté religieuse, bon, qui effectivement se retrouve là-dedans, il n'y a pas de problème, hein. Et je crois que nous allons beaucoup plus loin que tout cela. Finalement, je dirais que ces erreurs ne sont que les expressions, les manifestations de cette autre erreur de fond, et qui est la prédication quasi constante de Jean-Paul II, c'est la rédemption universelle. À savoir que tout homme est justifié par l'incarnation. Tout homme a retrouvé l'amitié avec Dieu par le seul fait de l'incarnation du Fils de Dieu. L'abbé Laroche nous en parlait ce matin. Évoquer la chose rapidement dans son serment, oui, c'est cette confusion complète, à savoir, puisque le Fils de Dieu a pris la nature humaine, il a épousé la nature humaine, eh bien, on veut nous faire croire qu'en épousant la nature humaine, il a épousé chacune des personnes qui ont la nature humaine. Mais non, il a pris la nature humaine, mais il a pris la nature humaine dans une personne, il a pris une nature humaine. Il n'a pas pris la nature humaine, il n'a pas pris chacune de nos natures humaines. Il n'a pas pris chacune de nos personnes. Mais non, il n'a pris une nature humaine que celle qui est de l'humanité du Christ. Pas les autres, pas les autres. Vous voyez, confusion autour de ce mot nature, hein, que nous retrouvons d'ailleurs ailleurs, hein, dans le credo, hein, le Père et le Fils de même nature ou consubstantiel. Mais ça, c'est une autre question. Ouais. Donc c'est cette erreur de la rédemption universelle. Tout homme est justifié. Alors laissez-les tranquilles. Allez pas les embêter à vouloir leur imposer votre credo, fichez-leur la paix. Ce qui compte, eh bien, c'est qu'ils reconnaissent que tout homme est digne, que tout homme est grand, que tout homme est beau, que tout homme est aimable, que tout homme est respectable. Et à partir du moment où une religion respecte les droits de l'homme, il faut la laisser tranquille. Alors, c'est là le dogme central. respecter la grandeur de l'homme, puisqu'il est fils de Dieu. En respectant l'homme, d'une certaine façon, vous respectez Dieu. Mais voilà. Eh bien, si l'islam respecte l'homme, laissez-le tranquille. Si les bouddhistes respectent l'homme, laissez-les tranquilles. Rédemption universelle, eh oui. Et même, oui, c'est effrayant, hein. ça donne le vertige, moi, ça donne envie de pleurer par moments. Hein. Vous voyez, cette citation là, du cardinal Ratzinger, non, pardon, excusez-moi, c'est une erreur. Citation du catéchisme, c'est un texte tiré du catéchisme, ouais, où il parle de la création, de la Sainte Trinité, ouais, bon, et la paternité de Dieu. Et voici ce que dit le catéchisme. Cette tendresse parentale de Dieu, ce qui est vrai, cette tendresse parentale de Dieu peut aussi être exprimée par l'image de la maternité, ce qui est vrai, qui indique davantage l'immanence de Dieu, l'intimité entre Dieu et sa créature, l'immanence de Dieu. Là, nous frisons ce qu'on appelle le panthéisme. L'immanence de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est dans le monde. Dieu, substantiellement, est uni au monde. Dieu et le monde, finalement, sont unis. Ouais. L'immanence, c'est ça, l'immanence. Ouais. Demeurer au-dedans d'eux. C'est grave, ça. C'est grave. Trouver des choses comme ça dans un catéchisme qui veut être catholique, c'est grave. Hein. L'immanence de Dieu. Là, il y a une confusion, encore, vous voyez, entre bon, cette présence de Dieu dans sa création, bien sûr, mais qui n'est pas une immanence. Vous voyez, bon, nous avons appris au catéchisme que Dieu est partout dans sa création, par sa présence, par sa puissance et par son essence. Bon, très bien, mais ce n'est pas l'immanence, ça. Attention. Il est présent, il est dans sa création par son essence, en tant qu'il est cause de tout être. Vous voyez, donc il soutient chaque être, là, dans l'existence, très bien. Il est présent... Il est dans sa création par mode de puissance, parce que, eh bien, tout lui est soumis. Très bien. Il est dans sa création par mode de présence, parce que tout est présent à ses yeux. Très bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est immanent à sa création? Et non. Dieu est distinct de sa création. Dieu et la création sont deux choses radicalement distinctes. Dieu n'est pas dans sa création, n'est pas sa création. Dieu n'est pas immanent à la création. Oui, et j'en viens me demander, oui, ce mot d'immanence, est-ce que c'est pour cette raison? Eh bien, que le catéchisme, lorsqu'il nous parle de Dieu, il nous dit que Dieu est amour, que Dieu est vérité, que Dieu est lumière, que Dieu est, bon, c'est tout un tas de choses tout à fait vraies, ça, grâce à Dieu, quand même. Mais pourquoi ne nous dit-il jamais que Dieu est esprit? Oui, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Nulle part, on ne nous dit que Dieu est esprit. Oui, parce que l'esprit et la matière, c'est pas pareil. Hein. Ouais, si Dieu est immanent au monde, est-ce que nous pouvons dire que Dieu est esprit? Ça devient un peu plus difficile. Bon, je sais pas. Là, c'est une question que je me pose simplement. Hein. Voilà, donc un petit peu, je dirais, ces conclusions ben, que nous pouvons peut-être un peu tirer simplement ouais, des présentations qui nous ont été faites du catéchisme. Ouais. Et qui me fait, moi, considérer hein, que ce catéchisme est peut-être, encore une fois, l'événement le plus grave hein, de ce siècle, pratiquement, finalement. Et encore une fois, le Concile, bon, bien sûr, le Concile a mis le désordre dans l'Église, mais il a atteint surtout l'épiscopat, je dirais, la hiérarchie de l'Église, les têtes pensantes, le gouvernement de l'Église, cela est vrai. Bien sûr, les fidèles ont été blessés par voie de conséquence, ça, c'est clair, mais... Mais ce catéchisme, justement, inocule le poison dans l'esprit même, cette fois, et de façon, on dirait, facile, agréable, dans l'esprit même des fidèles. Enfin. Alors maintenant, si nous considérons un peu le catéchisme, bon, parce que vous pouvez vous dire, mais tout ça, c'est bien gentil, mais vous nous racontez des histoires. Hein. Oh, vous avez mauvais esprit, vous êtes malveillant, toujours aussi, hein, suspicieux, quand même. Bon, ben nous allons voir. On va prendre le catéchisme, si vous voulez. On ne va pas le lire en tout en entier, parce que mes pauvres enfants, on y serait hein, pendant trop, trop longtemps, mais quelques passages. D'abord, c'est la question de la dignité de l'homme. Question de la dignité de l'homme, eh bien, dès le début, on nous parle de l'unité et vraie dignité de tous les hommes. Ensuite, l'homme et la femme. Ah, l'homme et la femme, attention, mesdames. Parfaite égalité. Dignité inadmissible qui leur vient immédiatement de Dieu, leur créateur, même dignité. parfaite égalité, même dignité, hommes et femmes. Bon. Ensuite, dans l'Église même, vous voyez, entre tous les fidèles du Christ, alors tous, là, attention, tous les membres de tous les fidèles du Christ, donc depuis le pape jusqu'au dernier des fidèles, du fait de leur régénération dans le Christ, il existe, quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité. Eh bien oui, même dans l'Église, oui, tous. Égalité, en vertu de laquelle tous coopèrent à l'édification du corps du Christ, selon la condition et la fonction propre à chacun. Mais radicalement, chacun a la même dignité, même dans l'Église. Créés, rachetés, tous jouissent d'une égale dignité. Ensuite, encore, l'égalité entre les hommes porte essentiellement sur leur dignité personnelle et les droits qui en découlent. Et donc, toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, est contraire au dessein de Dieu. Ou encore, l'égale dignité des personnes. Vous voyez, cela revient sans cesse. Dignité, égale dignité des personnes, quelles qu'elles soient, hommes et femmes, égale dignité. Dans l'Église, prêtres, évêques, fidèles, papes, égale dignité pour tous les hommes. Bon. Cela revient sans cesse. Ensuite, alors, cette dignité, maintenant, bon, c'est bien, on nous parle de dignité, mais qu'est-ce que c'est la dignité? Eh bien, c'est la liberté. Voilà. En quoi consiste votre dignité, mesdames et messieurs? C'est votre liberté. L'homme est doté de liberté, signe privilégié de l'image divine. Vous voyez, donc, ce qui nous fait à l'image de Dieu, c'est la liberté, d'après le catéchisme. Moi, j'avais appris jusqu'ici que ce qui me faisait à l'image de Dieu, c'était simplement l'intelligence et la volonté. C'est l'âme spirituelle. C'est le fait d'être spirituel. Ouais. Cette âme spirituelle, immortelle, capable de connaître et capable d'aimer. Voilà. Voilà l'image de Dieu. Bon, maintenant, il paraît que c'est la liberté. Donc, la dignité d'une personne douée de l'initiative et de la maîtrise de ses actes. Ou encore, vous voyez, le droit à l'exercice de la liberté. Le droit à l'exercice de la liberté est une exigence inséparable de la dignité de la personne humaine. Vous voyez, donc, si je perds un temps, soit peu de liberté, eh bien, je perds ma dignité. Ou encore, ça, c'est dans l'explication du Pater, c'est sur la fin du catéchisme, vous voyez, où Dieu attend notre demande parce que la dignité de ses enfants est dans leur liberté. Vous voyez, c'est clair. Donc, dignité égale de tout homme. Et en quoi consiste cette dignité? Eh bien, elle consiste dans leur liberté. Alors, je vais quand même vous donner quelques petits éléments, quelques contrepoisons, si vous voulez, pour vous y retrouver sur cette question de la dignité. Rapidement, qu'est-ce que l'on appelle la dignité d'un être? Eh bien, c'est saint Thomas d'Aquin qui nous donne la réponse. La dignité d'un être signifie la bonté de cet être. La perfection de cet être. Oui. Plus un être est parfait, plus il est digne. Bon, c'est clair, ça me paraît tout à fait de bon sens, même, à la limite. Oui. Donc, la dignité, oui, qualifie le degré de bonté et de perfection d'un être. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait la perfection d'un être? Eh bien, c'est son immatérialité. Moins un être est matériel, plus il est parfait. Oui. La matière est principe d'imperfection, principe de limitation, voyez, etc. Bon, la matière nous rabaisse justement vers les êtres inférieurs, et au contraire, plus un être est spirituel est chez nous. Qu'est-ce qui fait notre dignité? C'est notre âme spirituelle, précisément. Ce qui fait notre dignité, ce n'est pas que nous avons un corps animal. Ce qui fait notre dignité, c'est que nous avons une âme spirituelle, voilà, qui nous permet justement peut-être, eh bien, de nous arracher un petit peu à la matière, au monde matériel, au monde animal. Voilà la dignité. Oui. Donc c'est la spiritualité d'un être, oui, qui fonde sa dignité. Alors ainsi, nous avons au sommet de la dignité, bien sûr, mais nous avons Dieu, qui est pur esprit, justement. Oui. Ensuite, nous avons l'ange, qui est un esprit pur, mais déjà limité. Hein. Il est créé, au moins, par Dieu. Oui. Et ensuite, nous avons l'homme qui a une âme spirituelle, mais associée à un corps matériel. Ouais. Donc l'homme est moins digne que l'ange, parce que nous avons un corps matériel que l'ange n'a pas. Ouais. Et ensuite, eh bien, nous aurons l'animal, puis le végétal, et enfin le minéral. Ouais. Plus on descend vers le monde simplement matériel, eh bien, plus les êtres, si vous voulez, descendent, si vous voulez, dans l'échelle de la dignité. Ouais. Alors si vous ajoutez à cela, bien sûr, les dons de la grâce, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, hein, nous Nous arrivons à un autre ordre de dignité qui n'est plus la simple dignité naturelle, mais la dignité surnaturelle, selon les dons de Dieu, selon les dons selon que Dieu nous accorde avec sa grâce. Et ça, c'est, et ça justement, c'est la liberté de Dieu. Dieu donne aux uns tel ou tel don, ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, les vertus théologales, les vertus morales infuses, et Dieu répartit ces dons comme bon lui semble. Et dans cet ordre-là, eh bien, est-ce que nous avons tous la même dignité? Est-ce que tous nous avons reçu les mêmes dons de Dieu? Et non. Chacun d'entre nous reçoit des dons qui sont proportionnés à l'amour que Dieu lui porte. Et à ce moment-là, cela fonde déjà une répartition, une inégalité en tout cas dans la dignité des êtres dans cet ordre de la grâce, au moins. Et alors c'est à ce moment-là qu'intervient la liberté. Mais qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, bien justement, c'est cette capacité qu'a la volonté de choisir. C'est la volonté en tant qu'elle est capable de choisir tel ou tel bien, un bien plutôt qu'un autre, etc. Il appartient, nous dit saint Thomas d'Aquin, à la nature de libre arbitre de pouvoir se porter sur des choses diverses. Voilà. Alors la liberté, eh bien, elle intervient à ce moment-là, mais comme un moyen. Comme un moyen pour nous d'accroître notre dignité. Et si j'use bien de ma liberté, si je choisis vraiment le bien conforme à ma fin, le bien le plus apte à me conduire à ma fin, eh bien, ma liberté va me servir à acquérir des biens que je ne possédais pas, et donc à accroître ma dignité. Mais ma dignité, finalement, si vous voulez, elle sera la conséquence, peut-être, du bon usage de ma liberté, ou du mauvais usage de ma liberté. Mais ma dignité, ce n'est pas la liberté en tant que telle. Ce serait peut-être l'usage que je fais de la liberté, Si je l'use pour le bien, si j'use ma liberté pour le bien, eh bien, je serai plus digne que celui qui use sa liberté pour le mal. Alors, est-ce que c'est la liberté qui fonde ma dignité? Non, c'est l'usage que je ferai de cette liberté. Et au sommet, et plutôt au terme, eh bien, justement, je dirais la perfection que j'aurai acquise ou que je n'aurai pas acquise par l'usage que j'aurai fait de ma liberté. Et la dignité d'un être, en tout cas, bien, c'est cette perfection. C'est la perfection de mon être. Nous avons, je ne sais pas si vous connaissez cette petite prière, là. Petite prière, un petit acte d'adoration, où l'on dit, quand on arrive devant le bon Dieu, devant le Saint-Sacrement, « Dieu éternel et tout-puissant, qui m'avait créé, capable de vous connaître et de vous aimer. » Voilà ce dont nous rendons grâce à Dieu, c'est qu'il nous a créé capable de le connaître et de l'aimer. Bon, nous ne lui disons pas « Dieu éternel et tout-puissant, qui m'avait créé libre. » Ce n'est pas ça notre dignité. Notre dignité, ce n'est pas notre liberté. Notre dignité, c'est d'être capable de connaître et d'aimer Dieu. Voilà la dignité de l'homme. C'est autre chose que la liberté. Alors, on nous dit aujourd'hui bien que la dignité de l'homme est dans la liberté. Et ce qui vous explique, justement, on dirait, c'est cette sorte d'angoisse continuelle qu'on ressent chez nos clercs actuels, justement, cette angoisse de la liberté, de favoriser tout ce qui peut libérer l'homme de ceci, de cela. On pourrait dire un petit peu leur leitmotiv, c'est « liberté pour la liberté ». Libérer la liberté, ou je ne sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais ça ferait un très beau slogan, moi je pense qu'il ne serait pas contre. Il faut libérer la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut rien dire. Bon, donc, dignité de l'homme, quelle est cette dignité? C'est la liberté. Et donc, la liberté, précisément, doit être favorisée sous toutes ses formes et toute contrainte, toute inégalité, et même quelque chose de scandaleux. Une inégalité est scandaleuse. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est une offense, finalement, à la dignité de l'homme. Alors, s'il y en a un qui est plus grand que l'autre, eh bien, c'est une offense pour celui qui est plus petit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est, je ne sais pas, moi, s'il y en a un qui est un peu maladroit, qui est un peu gauche, qui a peut-être des infirmités par nature, eh bien, il ne peut pas faire tout ce que fait celui eh bien, qui, lui, n'a pas ses infirmités. Donc, celui qui est infirme, il est moins libre que l'autre. C'est un scandale, ça. Enfin, c'est pas normal, ça. Est-ce que c'est ça la dignité de l'homme? Est-ce que vraiment elle est là, cette dignité de l'homme? Allez demander à Saint Pédis ce qu'il en pense. Un très beau texte de Saint Pédis, je ne l'ai pas ici malheureusement, dans sa lettre sur le sillon, justement, où il fulmine contre ces fausses conceptions de la dignité de l'homme, et où il parle des pauvres et des petits que le Seigneur fera asseoir à sa droite à la fin. Est-ce que cela n'avait pas la dignité véritablement d'un être humain? Hein, qui sera au paradis à la droite de Dieu? Bon, mais nous verrons. On verra. Essayons d'y être, quant à nous, ce serait déjà pas mal. Et oui, cette liberté, alors ça revient sans cesse. L'homme a le droit d'agir en conscience et en liberté. Écoutez ça aussi. La charité passe toujours, attention, la charité passe toujours, par le respect du prochain et de sa conscience. Voilà. Respecter la conscience des autres. Allez, pas les embêter, ils font le mal, ils pêchent. Respectez la conscience. Si vous ne respectez pas la conscience des autres, vous manquez de charité, vous manquez à la charité, vous offensez la charité. Eh oui, le respect du prochain et de sa conscience. Ensuite, la défense. Ah, attention. La défense et promotion de la dignité humaine nous ont été confiées par le Créateur. Bon. Et bien sûr, alors ça c'est ce texte célèbre que vous connaissez, je pense un peu, sur le droit à la liberté religieuse, hein, bon, contre lequel Monseigneur Lefebvre a fulminé pendant des années et des années, et contre lequel nous avons travaillé à le réfuter, et qui est toujours là, hein, ce droit à la liberté religieuse. Vous connaissez sans doute, c'est un texte bien connu, ils ne font que reprendre les textes là de Vatican II, qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, suivant sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Ce droit est fondé sur la nature même de la personne humaine dont la dignité l'a fait adhérer librement à la vérité divine qui transcende l'ordre temporel, etc., etc. Le droit à la liberté religieuse. Voilà, liberté, liberté, liberté. Ensuite, autre thème majeur aussi de cette pensée-là, conciliaire, eh bien, c'est que l'homme, cet homme, est la fin. Donc l'homme, non seulement il est digne, non seulement il est digne par sa liberté, non seulement il doit être seulement libéré de toute contrainte, de toute pression, etc., de toute inégalité, mais l'homme est la fin et le sommet de tout. Et l'homme, finalement, doit être aimé plus que tout. La personne humaine, nous dit le catéchisme, la personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. Voilà. Mais après, plus tard, on vous parlera quand même de la royauté du Christ sur les sociétés. Alors. Si c'est l'homme qui doit être le principe, le sujet et la fin, c'est-à-dire que toute la société doit être ordonnée à l'homme. Et je ne vois pas ce que le Christ a à faire là-dedans, à la limite. Oui. Et même encore plus grave, oui. La personne représente le but ultime de la société. Dans ce sens, ça c'est encore plus grave, le but ultime. C'est-à-dire que la société n'a pas d'autre fin que l'homme. La société n'a pas comme but ultime Dieu. Ce qui n'empêchera que plus tard, on vous parlera justement de la royauté du Christ sur les sociétés. Oui, c'est la personne qui est le but ultime de la société. Voilà. Le but ultime, il est donc, eh bien, il est parmi nous. Non, il ne faut pas le chercher au ciel, il ne faut pas le chercher dans la Sainte Trinité. Le but ultime de la société, donc la société, elle doit conduire l'homme, je ne sais pas où, mais vers l'homme. Mais pas vers Dieu. Si l'homme est le but ultime de la société, pourquoi chercherait-elle à conduire les hommes à Dieu, puisque ce n'est pas son but ultime? Le Christ, il est beau l'homme quand même, quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai d'ailleurs, attention, hein. Il ne s'agit pas non plus de mépriser, c'est vrai que l'homme est quelque chose d'extraordinaire, mais attention, hein. Il est quand même un peu moins bien que Dieu. Hein? Bon, pas l'oublier quand même. Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Et le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Et donc, le Christ, finalement, est venu vers l'homme pour lui dire « Mais regarde comme tu es beau. » Et oui, le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Il faut que l'homme devienne amoureux de lui-même. Et c'est pour ça que le Christ a quitté son ciel de gloire. C'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix, pour manifester l'homme à lui-même. Quand je vous dis que c'est à pleurer par moments... toute la loi évangélique, écoutez bien, toute, le mot est important. Je n'ai pas le texte latin, il n'est pas encore sorti, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a en latin. De toute façon, le texte original, c'est le français. Il a été composé d'abord en français, et ensuite ils l'ont traduit en latin. Bon, peu importe. Toute la loi évangélique, c'est clair, hein, toute, tient dans le commandement nouveau de Jésus de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Voilà. L'amour de Dieu là-dedans, ben, je ne sais pas où il est, moi. Toutes, j'ai dit bien toutes, c'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme, hein, ça, je peux vous donner la référence, c'est le paragraphe 1970, pardon. Toute la loi évangélique tient dans le commandement nouveau de Jésus de nous aimer les uns les autres. Moi, j'ai le souvenir d'un passage dans saint Matthieu où Jésus-Christ nous parle du premier commandement, du second qui lui est semblable, et dit-il, dans ces deux commandements, hein, toute la loi et les prophètes est contenue. Et dans les deux commandements. Et bien maintenant, toute la loi, elle est contenue dans le deuxième uniquement. Alors on nous dira, mais le deuxième est semblable au premier. Oui, bon, d'accord, mais attention, hein. Toute la loi évangélique tient dans le commandement nouveau de Jésus de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Donc, voilà, l'homme doit être aimé, et, quoi qu'il en coûte, et par-dessus tout. Voilà. Et s'il y a des problèmes dans votre amour pour les hommes, eh bien, vous ne respectez pas la loi évangélique. Alors, c'est vrai en partie, mais à voir. Hein. On peut discuter un petit peu. Oui, et donc, c'est cette inversion qui est diabolique, hein, démoniaque. Hein, à savoir que le respect de la dignité de tout homme, la qualité de nos relations avec les autres est finalement la vertu première et fondamentale. Et qui passe même avant la rectitude de la foi. Mais oui. Qui passe avant les rectitudes de la foi. Que vous croyez en Dieu, que vous n'y croyez pas, tout ça n'est pas grave finalement. Du moment que vous croyez en l'homme. Du moment que vous aimez l'homme. Mais oui. Tout homme est ami et fils de Dieu. Oui. Bon, ça c'est cet autre thème. Bon, nous avons regardé pour l'instant cette question de la dignité de l'homme, sa liberté. Donc l'homme qui est la fin de tout l'ordre social, de tout l'ordre créé, c'est l'homme qu'il faut aimer plus que tout. Et alors il y a cet autre thème, hein, que nous avons évoqué tout à l'heure et sur lequel il faut nous arrêter un peu, à savoir précisément bien que tout homme est fils de Dieu. Tout homme est ami et fils de Dieu. Tout homme est en état de grâce, hein, avec Dieu. Alors voici quelques passages encore du catéchisme. Une fois l'unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d'abord à sauver l'humanité en passant par chacune de ses parties. Bon, c'est vrai. Alors, voilà, les différentes alliances. Oui. Alors, l'alliance, la première alliance que Dieu fait avec les hommes, c'est l'alliance avec Noé. L'alliance avec Noé. Alors, attention, hein, écoutez bien. L'alliance avec Noé, donc, bon, on connaît l'histoire, hein, Noé, le déluge, et puis Noé avec sa famille. Donc Dieu ensuite fait alliance avec Noé. Alors Noé représente tout le genre humain, bien sûr, puisque tout le genre humain est là, rassemblé dans l'arche. Hein, très bien. Et donc cette alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations, jusqu'à la proclamation universelle de l'Évangile. Voilà. Donc l'alliance avec l'humanité demeure. Avec toute l'humanité demeure. Hein. L'Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui vivent selon l'alliance de Noé dans l'attente que le Christ rassemble dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Et donc cette alliance avec le genre humain, bon, que Dieu a conclue donc à travers Noé, demeure jusqu'à la fin des temps. Ensuite, l'ancienne alliance. Alors, l'ancienne alliance, bien sûr, vous pensiez, vous, que Jésus-Christ l'avait révoquée en mourant sur la croix, mais non, pas du tout. L'ancienne alliance n'a jamais été révoquée, en toutes lettres. L'ancienne alliance n'a jamais été révoquée. Voilà. L'Ancien Testament, ces livres sont divinement inspirés, c'est vrai, conservent une valeur permanente, c'est vrai, car l'ancienne alliance n'a jamais été révoquée. Bon, alors oui, c'est bien, vous avez pour l'instant l'alliance avec Noé. Ensuite, l'ancienne alliance qui demeure. Bon, et c'est au peuple juif qu'appartiennent l'adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses et les patriarches, lui de qui est né selon la chair le Christ. C'est une citation de saint Paul dans l'Épître aux Romains, mais vous voyez qu'il faut savoir bien placer, justement, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Donc le peuple juif a gardé tous les dons, tous les privilèges que Dieu lui avait accordés avant. Donc l'ancienne alliance demeure. L'alliance avec Noé demeure. Bon, c'est déjà pas mal avec ça, hein. On a de quoi s'en tirer quand même. Eh bien non, encore troisième alliance, bien sûr. Eh bien, c'est la nouvelle alliance. Et là, c'est là, je dirais, bon, ce dont nous parlions tout à l'heure, hein, par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Et là, le catéchisme reprend cette citation au moins trois fois. Oui, donc, ce n'est pas... Oui, c'est important pour eux, trois fois. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Il a donné sa vie pour la multitude. Ah, toujours la traduction. Pour la multitude, pro multis, qui en bon français veut dire pour beaucoup. Eh bien, il traduit comme dans l'ordomicée. Le nouveau surdomicé, la nouvelle messe. Donc le promulti s'est traduit par la multitude, c'est-à-dire pratiquement pour tous, quoi, finalement. Hein. Alors ça n'est pas faux que Jésus-Christ soit mort pour tous, c'est vrai. Mais est-ce que tous sont rachetés pour autant, en acte, effectivement? À voir, ça. Hein. La rédemption est définitive. Le sacrifice de la nouvelle alliance remet l'homme en communion avec Dieu. Le sang est répandu pour la multitude. Écoutez, voilà, et là c'est peut-être encore le plus clair, oui. L'existence dans le Christ de la personne divine du Fils, qui dépasse et en même temps embrasse toutes les personnes humaines. Ah, là on ne parle plus de la nature humaine, oui. On parle des personnes humaines. Donc la personne divine du Fils embrasse toutes les personnes humaines. Voilà. Et donc nous sommes, nous, alors, chacune de nos personnes est embrassée dans la personne du Christ. Voilà. Donc elle embrasse toutes les personnes humaines qui le constituent, tête de toute l'humanité, rend possible son sacrifice rédempteur pour tous. Vous voyez, donc le sacrifice est rédempteur pour tous parce que chacune de nos personnes est embrassée par la personne du Christ. Eh bien, c'est grave, ça. C'est grave, c'est monstrueux, ça. Monstrueux. C'est faux, faux. C'est une hérésie, ça. C'est une hérésie. C'est faux. Si vous voulez, quelques textes de saint Thomas d'Aquin. Oui, bon, il est clair que le Christ est mort pour tous, ça, c'est vrai, ça. Le Christ est mort pour tous. Il veut le salut de tous, c'est vrai, ça. Il a versé son sang pour tous. Mais est-ce que chacune de nos personnes, effectivement, est touchée, si l'on peut dire, par le sang du Christ? Est-ce que chacune des personnes humaines est vraiment rentre en contact avec le sang et la croix du Christ? Oui ou non? Mais pour rentrer en contact avec la passion du Christ, avec le sang du Christ, avec la croix du Christ, il faut venir vers lui. Il faut venir au calvaire. Lui, il est sur la croix jusqu'à la fin des temps, c'est vrai, il est mort pour tous. Il ouvre ses bras à tous. Mais est-ce que tout le monde court vers lui? Est-ce que tout le monde va lui baiser les pieds? Est-ce que tout le monde va boire à son sang? Alors, ceux qui n'y vont pas, qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce que j'y fasse, moi? Pas ma faute, moi, s'ils n'y vont pas. Mais est-ce qu'on peut dire que parce que le Christ est mort, là, il a aimé tous les hommes, jusqu'à la fin, il est mort pour tous les hommes, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, eh bien, qu'aussi bien les saints que les autres qui insultent Jésus-Christ sont sauvés? Enfin, quand même, il ne faut pas se moquer du monde, non? Il ne faut pas se moquer du Christ. On ne se moque pas de la croix, quand même. Pas bien, ça. Pas bien, ça ne se fait pas. Oui, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. La passion du Christ est la cause universelle préalable de la rémission des péchés. C'est vrai, tous nos péchés sont remis, mais par la passion du Christ. C'est clair, ça. Mais il est pourtant nécessaire qu'on l'applique, cette rémission des péchés, à chacun, afin d'effacer les péchés propres. Oui, il faut que cette passion soit appliquée à chacun. Sinon, ben, les péchés ne sont pas effacés. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est simple, ça, à comprendre. Je ne sais pas, mais enfin, c'est du bon sens, même, à la limite. Alors, cette application, comment se fait-elle, nous dit saint Thomas? Par le baptême, par la pénitence et les autres sacrements qui tiennent leur vertu de la passion du Christ. Voilà comment se fait le salut des âmes. Voilà comment on entre en contact avec la passion du Christ, avec le sang rédempteur. Voilà comment on est sauvé, par le baptême, par la pénitence et les autres sacrements. Et c'est aussi par la foi, ajoute saint Thomas encore, que la passion du Christ nous est appliquée afin que nous en percevons les fruits. Or, la foi par laquelle nous sommes purifiés du péché n'est pas la foi informe, mais la foi informée par la charité. Une foi, vraiment, si nous croyons en Jésus-Christ et que nous ne puissions pas, peut-être, justement, accéder au sacrement, cela peut arriver, eh bien, cette foi qui est animée, informée par la charité, peut nous obtenir la rémission des péchés. Mais il faut qu'elle soit informée, ouais, animée par la charité, cette foi. Et il y a un autre passage qui montre bien, je crois, et qui est pour moi, je dirais, la réfutation la plus évidente, justement, cette chose-là. Et saint Thomas d'Aquin qui nous explique comment s'est transmis le péché originel et comment se fait la réparation. Le péché originel s'est répandu de telle façon que c'est d'abord la personne d'Adam. Bon, d'abord c'est Adam qui a péché, c'est lui qui a commis le péché originel. Bon, donc c'est d'abord la personne d'Adam qui a infecté la nature. Vous voyez, donc sa nature a été infectée par le péché originel. Et c'est cette nature ensuite qu'il transmet à ses enfants. Cette nature qu'il transmet à ses enfants, qui ensuite va infecter les personnes de ses enfants. Donc tous, nous naissons avec le péché originel parce que nous recevons la nature infectée par Adam. Bon, très bien. Et la réparation, comment se fait-elle? Elle se fait de façon inverse. Le Christ, à l'inverse, répare d'abord la personne, chacun d'entre nous personnellement. La réparation, la rédemption, elle est personnelle. Il faut un acte personnel. Oui. Alors la réparation, donc le Christ, à l'inverse, répare d'abord la personne, et puis plus tard, alors à la fin des temps, et chez tous en même temps, il réparera la nature. Voilà, très bien, mais ça, et la réparation de la nature, elle se fera à la fin des temps, mais pour l'instant, ça se fait personne par personne. C'est pas la nature, globalement. La nature humaine qui est rachetée, non, 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 ce sont les personnes qui sont rachetées. Eh oui. Terrible, ça, terrible. Eh oui. Alors, bien sûr, le péché originel est une réalité. On vous parle du péché originel, ça, c'est clair, oui. Eh oui, c'est vrai, il est même mort de l'âme, nous dit-on. Ouh là là, terrible ça, mort de l'âme, c'est vrai, c'est marqué. Oui. Il prive de la sainteté, de la justice originelle. Et depuis, oh, ça c'est autre chose, bon, ça. Une véritable invasion du péché inonde le monde. Écoutez bien, messieurs les chrétiens, mesdames et messieurs les chrétiens. Après la rédemption aussi, virgule, parmi les chrétiens, virgule, le péché se manifeste de nombreuses manières. Et chez les autres, non? Et pourquoi chez les chrétiens? Alors ça, c'est une chose qui me déplaît, moi, souverainement, c'est qu'à cinq ou six reprises, si je puis dire, on en prend, mais alors, hein, qu'est-ce qu'on ramasse, nous, les chrétiens, disons? Bon, je veux bien qu'on ne soit pas toujours des saints, hein, mais alors, là, il y a une sorte d'insulte à l'Église, là. Bon, ça vous paraît être sévère, mais qu'est-ce que vous voulez? Enfin, les chrétiens, quand même, qu'est-ce que c'est, les chrétiens? Ce sont les baptisés. Ce sont les baptisés qui vont à la messe, qui communient, qui se confessent, etc. Alors qu'ils soient des pauvres types, on est d'accord. Qu'ils fassent des péchés encore, on est d'accord. Très bien. Mais est-ce que vraiment ils méritent d'être traités si mal par ce catéchisme-là? Et d'être beaucoup plus maltraités que les païens, que les infidèles, que les juifs, que les musulmans? Apparemment, il n'y a pas plus grand pécheur que les chrétiens. C'est vrai. Puisque tout à l'heure, on le verra. Hein. L'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus. Dites, aux chrétiens. Saint Augustin, lui, avait la bonté quand même de dire aux mauvais chrétiens. Alors là, je suis d'accord. Oui, ah oui, un mauvais chrétien, ah ben oui, mais il y a une différence, qu'est-ce que vous voulez, du calme, hein. Un mauvais chrétien, c'est sûr, qui reçoit tant et tant de grâce, et qui pêche et qui insulte le Christ, il est plus coupable, c'est vrai, que celui qui n'a pas reçu la grâce, qui n'a pas reçu la vérité, ça c'est vrai ça. Mais le chrétien, en tant que tel, quand même, bon, enfin, fermons la parenthèse, oui. Mais le péché originel, alors, il semble quand même n'avoir pas de conséquences si graves que ça, si terribles que ça. Il nous affaiblit. Bon, il y a toutes ces mauvaises tendances qui sont en nous, l'ignorance, la souffrance, la mort. Mais alors, attention, mesdames, je vais vous faire hurler, mais enfin, tant pis. Cette question qui nous fait toujours un petit peu, bon, un petit peu tiquer, eh bien, vous allez voir, finalement, elle est très, très facilement résolue. Hein. C'est le sort des enfants morts sans baptême. Bon, les enfants qui meurent donc sans le baptême, qui donc quittent la terre avec le seul péché originel. C'est là que nous allons voir quelle est la conséquence, finalement, du péché originel. Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rite des funérailles pour eux. En effet, la grande miséricorde de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et la tendresse de Jésus envers les enfants qui lui a fait dire « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas », nous permettent d'espérer qu'il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. Alors on peut l'espérer, c'est vrai, mais la doctrine, la thèse traditionnelle, eh bien, est que le péché originel est un obstacle à la vision béatifique. Ça, c'est la thèse traditionnelle, qui n'est pas de foi, d'accord, c'est vrai, ce n'est pas de foi, donc ceci n'est pas une hérésie, c'est vrai, mais la thèse traditionnelle, qui est certaine dans l'Église, qui est soutenue par la plupart des théologiens, et qui était soutenue jusqu'à ces derniers temps, mais c'est qu'un enfant qui meurt sans le baptême, et qui donc n'a que le péché originel, ne peut pas aller en enfer, bien sûr, il ne va pas souffrir la peine d'essence, etc., mais le péché originel fait un obstacle à la vision de Dieu. Donc, il va à ce qu'on appelle les limbes, qui est un lieu de bonheur naturel, où il ne hait pas Dieu, où il ne souffre pas, mais il ne jouit pas de la vision béatifique. Il est heureux, au maximum de ses possibilités. Donc, voilà. Voilà ce que dit la théologie jusqu'ici. Eh bien là, il semblerait que le péché originel, finalement, ne soit pas un obstacle hein, à la vision béatifique et au salut de ses enfants, puisque laissez venir à moi les tout-petits-enfants. Le baptême de désir également, ah, ce baptême de désir. Eh bien, finalement, le baptême de désir, ben, tout le monde désire le baptême. À peu près, oui. Ceux qui sont dans l'ignorance, eh bien, sont tous plus ou moins dans une sorte d'ignorance invincible. Oui, par exemple, ben, c'est au même endroit ou à peu près. Puisque le Christ est mort pour tous, etc., tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et de son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. On peut supposer que de telles personnes auraient désiré explicitement le baptême si elles en avaient connu la nécessité. C'est à voir ça, hein. Tout homme qui, ignorant l'évangile du Christ et de son Église, mais on se garde bien de nous dire pourquoi il ignore l'évangile du Christ et de son Église. Est-ce que c'est ignorance invincible ? Ignorance affectée, ignorance crasse ou ignorance justement invincible, non coupable, oui. Et ça change pas mal les choses. Chercher la vérité et faire la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, est-ce que ça suffit, ça? C'est pas évident. Hein. Il y a un document de 1949, justement, de Pie XII, si je le retrouve. Où l'ai-je mis, le voilà. Qui nous précise justement bien que oui, cette question du désir du baptême, désir implicite du baptême. Alors effectivement, bon, ça, on admet que quelqu'un qui n'a pas eu connaissance, sans qu'il y ait faute de sa part, oui, de l'évangile, de Christ, etc., et qui pratique la loi naturelle et qui vraiment, je dirais, vit saintement, si l'on peut dire d'une certaine façon, sans connaître l'évangile, sans connaître le Christ, etc. Bon, on parle à ce moment-là de désir implicite du baptême. Oui, si l'Évangile lui avait été proposé, cet homme est certainement tellement droit eh bien, qu'il aurait embrassé l'Évangile. Mais attention, vous voyez ce que dit donc 1949, lettre à Mgr Cushing. Il ne faut pas penser que n'importe quelle sorte de désir d'entrer dans l'Église suffise pour être sauvé. Attention, car il est nécessaire que le désir qui ordonne quelqu'un à l'Église soit animé par la charité parfaite. Eh oui, le désir implicite, donc c'est de ça qu'il est question, ce désir implicite qui n'est pas exprimé, donc, ne peut avoir d'effet que si l'homme a la foi surnaturelle. Eh oui, car la foi est le commencement du salut de l'homme, le fondement et la racine de toute justification sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu et de parvenir à partager le sort de ses enfants. Oui, il ne s'agit pas donc de n'importe quel désir, hein, comme pas un bon désir. Non, non, il faut que ce désir bon, sous l'action de grâce actuelle, bien sûr, ça c'est l'action du Saint-Esprit que nous ne connaissons pas et que personne ne peut discerner, ouais, mais ce désir va être salutaire pour ces êtres qui ne connaissent pas l'Évangile, s'il vient, justement, s'il est animé par une foi, par une charité surnaturelle, bon, qui est cachée, secrète, ouais. Mais il ne faut pas le cacher, ça, il faut le dire, c'est des choses qu'il faut dire. Ouais. Parce que sinon, bon, on va s'imaginer qu'après tout, ben, quelqu'un qui vit à peu près normalement, sans faire de gros péchés, eh ben, il n'y a pas de problème, il va aller au paradis. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Oh, puis après tout, pourquoi se casser la tête, hein? Pourquoi se casser la tête? Regardez un peu aussi, savez, les funérailles. Parce que quand même, ça existe, les funérailles. Alors qu'est-ce que c'est les funérailles? Que se passe-t-il pendant les funérailles? Eh bien, c'est la dernière Pâque du chrétien. Voilà, le jour de la mort inaugure, etc. Bon, très bien. L'Église, qui comme mère a porté sacramentellement en son sein le chrétien durant son pèlerinage terrestre, l'accompagne au terme de son cheminement pour le remettre entre les mains du Père. Bon, très bien, tant mieux. Moi, je veux bien. Mais je suis pas sûr, moi, que tous ceux que nous enterrons, effectivement, nous les remettions dans les mains du Père. Je l'espère, d'accord, on prie pour ça, mais c'est pas évident, hein. Pas évident, le purgatoire, ça existe, ils le disent même. Et l'enfer aussi, ça existe, hein. Ben apparemment, non, dans les funérailles, il n'est pas question de ça, on le remet. Voilà, elle offre au Père, dans le Christ, l'enfant de sa grâce. Et elle dépose en terre, dans l'espérance, le germe du corps qui ressuscitera dans la gloire. Pas évident, le corps, peut-être qu'il ressuscitera pour l'enfer, hein. Je ne sais pas, attention, là, je n'ai aucune certitude, mais il n'est pas évident que tout cela soit pour la gloire. Hein. Bon. Ah, un autre point aussi. Ah, misère, misère. Vous avez dit que j'ai mauvais esprit, mais qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Je l'ai lu, le catéchisme, hein, vous savez. Hein. Le suicide. Eh oui, malheureusement, ça existe, le suicide. Eh bien, on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager, par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire repentance. Et l'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Alors, c'est pas entièrement faux, mais vraiment, vous voyez, c'est vraiment, tout est facile, quoi. Tout est facile. Bon, il est clair, hein, bon, c'est bien évident que quelqu'un qui se donne la mort sous les bandes sans avoir conscience, bon, il y a quelqu'un qui serait malade ou je ne sais quoi, bon, bien sûr, il n'est pas responsable de ses actes. Bon, mais qu'on le dise. Voilà, effectivement, il y a certains cas où le suicide n'est pas imputé à la personne parce qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Ou bien parce que la personne a eu le temps, entre le moment de son acte et puis la mort véritable, peut-être le temps d'un certain repentir. Très bien, à ce moment-là, oui, on va prier pour elle. Mais le suicide normal, malheureusement, si je peux dire, l'Église ne prie pas pour cela. On ne peut pas. On quitte la terre sur un péché mortel. Alors, bon, alors, après ce qui se passe, on n'en sait rien. Mais je dirais objectivement, vu que cela, on ne peut pas conclure du suicide, eh bien, qu'après tout, tout va bien se passer pour le pauvre, là. Personne n'en sait rien, ça. Ah, il ne faut pas imaginer, la théologie, ce n'est pas de l'imagination, hein, ça, du calme. Hein. Et Dieu ne nous a jamais dit, nulle part, eh bien, voilà, hein, je vais prendre tout le monde sous mon cœur, hein, quelle que soit la façon dont on quitte la terre. Jamais Dieu n'a dit ça. Hein. Oui, donc cette sorte d'irénisme, finalement, ben, tout homme est ami de Dieu et tout homme est sauvé pratiquement d'une façon ou d'une autre. Oui. Alors, ce qui n'empêche pas, ben, de parler du péché, de parler de l'enfer, du purgatoire, mais finalement, on se demande un peu qui peut bien y aller, quoi. Hein. Et puis ensuite, alors, cette autre erreur qui suit un peu à tout ça, c'est le sort de notre pauvre et sainte Église. Hein. Ben, c'est que l'Église, finalement, c'est l'humanité, toute religion confondue. On vous dit, hors de l'Église, pas de salut. Très bien, et c'est vrai, on vous le dit, oui. Mais finalement, il semble que hors de l'Église, il n'y ait personne. Et oui, et c'est vrai, ça. Oui, c'est un de nos séminaristes dont le frère est prêtre, bon, prêtre progressiste, et qui un jour discutait avec lui, justement, de cette question, hors de l'Église, pas de salut. Et son frère lui dit, mais hors de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ou bien on est dans l'Église, ou bien on est en voie vers l'Église. Alors, oui, bon, mais d'accord, mais celui qui est en voie vers l'Église, il est dedans ou il est dehors? Non, mais allez, il est en voie vers l'Église. Voilà. Donc, hors de l'Église, il n'y a personne. Alors évidemment, hors de l'Église, pas de salut, pas de problème, c'est facile. Quelques textes. Tous les hommes, tous, appartiennent à l'unité catholique du peuple de Dieu sous diverses formes ou lui sont ordonnés. Ils sont en voie vers l'unité du peuple de Dieu. Toutes les religions recherchent Dieu. Ils sont des préparations évangéliques. Il faut avoir un respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Toutes les religions, vraiment, vous voyez, sont porteuses du Christ et conduisent au Christ, finalement. Eh oui. Alors, chez les chrétiens, bon, les protestants, etc., bon, beaucoup d'éléments de sanctification et de vérité existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut. Le protestantisme est un moyen de salut, l'orthodoxie est un moyen de salut, les sectes méthodistes et tout ce machin-là sont des moyens de salut. On ne vous casse pas la tête. Qu'est-ce que vous faites ici, quoi ? Bon, enfin, c'est vrai. Justement, plus facile dans certaines sectes, eux, hein, ça, c'est... Eh oui. Ce sont des moyens de salut dont la force vient de la plénitude de grâce et de vérité que le Christ a confiée à l'Église catholique. Tous ces biens proviennent du Christ et conduisent à lui et appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Donc, vous voyez, tout ça est en voie vers le Christ. Les non-chrétiens, bien sûr, sont ordonnés aussi au peuple de Dieu. Alors, les Juifs, ça, c'est extraordinaire. Vraiment, les Juifs sont des types extraordinaires, ouais. Les Juifs n'ont jamais commis de péché. C'est vrai, hein, c'est bien, tant mieux pour eux, je leur souhaite, mais enfin... Bon, voilà. Oui. Certes, oui, les rapports du Christ avec les pharisiens ne furent pas uniquement polémiques. Alors, on nous aligne, bien sûr, tous les exemples de pharisiens qui étaient des gens bien, etc. Bon, c'est vrai. Bon, enfin, passons là-dessus, c'est pas... Surtout le... Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez ? C'est une méprise, tout ça. Ils se sont trompés. C'était trop dur ce que leur annonçait notre Seigneur. Voyez. Jésus a demandé aux autorités religieuses de Jérusalem de croire en lui à cause des œuvres de son Père qu'il accomplit. Mais, etc., etc. Une telle exigence de conversion face à un accomplissement si surprenant des promesses permet de comprendre la tragique méprise du Sanhédrin. La tragique méprise du Sanhédrin. C'était trop dur, celui-là. Il ne pouvait pas. On leur en demandait trop. Alors, bien sûr, les Juifs ne sont pas responsables collectivement de la mort de Jésus. Bon, ce qui est vrai, en partie, bien sûr. Alors, voilà, c'est ça moi, qui me fait hurler. Moi, qu'est-ce que vous voulez faire hein, bon. Tenant compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même, c'est vrai, nos péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus. Responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. Eh oui, eh oui. Oui, saint Augustin, lui, disait quand même un petit peu, ou saint Thomas d'Aquin, lui, avait d'autres considérations sur le péché ou l'innocence des Juifs. Oui, les notables des Juifs, donc les notables, hein, donc le Sanhédrin, etc., connurent que Jésus était le Christ promis dans la loi, mais ils ignoraient le mystère de sa divinité. Il faut remarquer toutefois, c'est saint Thomas qui parle, hein, que leur ignorance ne les excusait pas de leurs crimes, car elle était de quelque façon une ignorance affectée, une ignorance voulue. Ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas compris le mystère de la divinité du Christ, mais parce qu'ils se sont fermés les yeux. Ils n'ont pas voulu comprendre. Ils voyaient en effet les signes évidents de sa divinité. Ils avaient tout. Ils avaient tout pour comprendre. Oui. Mais par haine et par envie du Christ, ils en pervertissaient le sens et ils n'ont pas voulu croire aux paroles par lesquelles ils confessaient qu'il était le Fils de Dieu. Et parce que le Messie qu'il se présentait à eux, là, tel qu'il se présentait à eux, n'était pas le Messie qu'ils attendaient. Ce n'est pas celui qu'ils voulaient. Ce n'est pas comme ça qu'ils voulaient le Messie. Alors ils se sont voilés la face. Donc c'est une ignorance, oui, mais ignorance voulue. Et donc, eh bien, cette ignorance, elle les accuse au lieu de les excuser. L'ignorance affectée, cette ignorance voulue, n'excuse pas de la faute, mais l'aggrave plutôt. Donc ils sont encore plus coupables, oui, pour s'être voilé la face. Et leur péché fut la plus grave des fautes. La plus grave des fautes. Bon, je ne m'en réjouis pas, c'est évident, mais ça me rassure un peu quant au péché des chrétiens, quand même. Bon, nous péchons, c'est clair, mais j'espère quand même que l'Église, qui est porteuse de grâce, eh bien, nous permet quand même de moins insulter Jésus-Christ que les Juifs, quand même. Sinon, à quoi sert l'Église ? À quoi sert l'Église ? À quoi sert la croix du Christ ? À quoi sert la messe ? À quoi servent les sacrements ? Si nous sommes malgré tout ça, encore plus coupables que les Juifs, mais enfin, mais à quoi ça sert ? Quelque chose de grave, là, enfin, quoi. Eh oui. Et saint Augustin, donc, lui, précisait justement quand même les mauvais chrétiens. Ah, bon, là, d'accord, c'est vrai. Les mauvais chrétiens, c'est ceux qui vraiment ne font pas tout ce qui est en eux pour correspondre aux grâces reçues. Alors, cela, d'accord, oui. Qui sont les ennemis de l'Église, dit-il, saint Augustin, les païens, les juifs, les mauvais chrétiens vivent plus mal que tous. Vous voyez, il y a une différence quand même entre les mauvais chrétiens ou les chrétiens, tout simplement. Moi, j'espère que les chrétiens normaux, quand même, voilà, vivent mieux que les juifs, quand même. Quand même. Quand même. Bon. Alors, quant aux juifs et l'Église catholique, bon, vous le savez sans doute, hein, bien, nous tendons vers des buts analogues. Voilà, nous attendons la même chose, la venue ou le retour du Messie. Bon, ben, c'est clair, hein. Quant aux musulmans, eux, ils professent la foi d'Abraham, donc aucun problème, puisque la foi d'Abraham était une foi implicite à Jésus-Christ. Donc les musulmans croient au mystère de Jésus-Christ de façon implicite, donc pas de problème non plus. Alors finalement, on se demande, vous voyez, qui n'est pas dans l'Église ? D'une certaine façon, qui n'appartient pas à l'Église ? Ou bien nous sommes des membres de l'Église, ou bien nous sommes en voie vers l'Église, et notre foi, bon, quoi que ce soit que nous croyons, est d'une certaine façon bien la foi au Christ. Oui, oui, oui. C'est terrible tout ça. Alors, tout ça, vous voyez, et tout ça est fondé, vous voyez, sur cette pensée fondamentale, justement, bien de la dignité de tout homme et de l'amitié de tout homme avec Dieu. Tout homme est d'une certaine façon en état de grâce. En état d'amitié avec Dieu, alors quelle que soit sa religion. Donc, vous voyez, l'œcuménisme et la liberté religieuse ne sont que des conséquences, vous voyez, de ce dogme fondamental, eh bien, de la bonté intrinsèque de tout homme, de tout être humain. Jean-Jacques Rousseau a gagné. Eh oui. D'une certaine façon. Eh oui. Alors, l'Église, eh bien, l'Église, elle, qu'est-ce qui reste à l'Église ? Eh bien, l'Église, il lui reste à se parfaire. Ben oui, parce que l'Église n'est pas parfaite. Eh oui. L'Église n'a pas atteint totalement l'unité que Jésus-Christ désire pour elle. Oui. L'unité, alors que l'unité, eh bien, nous croyons que l'Église est une, tout simplement. Une, mais attention, une, dans le sens de l'unité intrinsèque, l'unité intérieure, c'est-à-dire que l'Église n'est pas divisée. L'Église fait un tout, une seule substance. Et ça, l'Église est une. Voilà. Quand quelqu'un, je dirais, l'Église ne peut pas être divisée. Oui. Quand quelqu'un quitte l'Église, eh bien, il quitte l'Église, mais l'Église reste une. Si vous me coupez la main, eh bien, ma main, elle me quitte, mais moi, je reste ce que je suis, moi. Bon. C'est une image, bien sûr, parce que là, il me manque quand même un morceau, alors que l'Église est toujours aussi une, avec ou sans moi, ça ne change rien à son unité intrinsèque. Eh bien, voilà, l'unité, elle, subsiste de façon inadmissible dans l'Église catholique, et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Donc, il s'agit d'accroître l'unité de l'Église. Alors, c'est là la raison de l'œcuménisme, vous voyez. L'œcuménisme n'a pas tellement, je dirais à la limite, comme but, eh bien, d'aller porter l'Évangile, mais d'accroître l'unité de l'Église, vous voyez, de parfaire l'Église. Donc, tous ces membres auxquels nous allons porter l'Évangile, le baptême, etc., eh bien, vont s'agréger à l'Église et donc accroître, d'une certaine façon, l'unité de l'Église. Et non, on ajoute ou on ne retranche rien comme ça. Quand un membre rejoint l'Église ou quitte l'Église, cela n'ajoute et ne retranche rien à l'Église. L'Église est toujours aussi sainte, aussi une, aussi catholique et aussi apostolique. Qui est-ce qui gagne ou qui perd ? C'est le membre qui rentre dans l'Église ou qui quitte l'Église. Oui, lui, il gagne quelque chose ou il perd quelque chose. Mais l'Église, elle, pensez donc, heureusement que l'Église n'a pas besoin de nous, hein. Misère, qu'est-ce qu'on a alors à lui apporter ? Nous, pas grand-chose, alors qu'elle a tout à nous apporter, bien sûr. Ouais. Alors, bien sûr, dans ce mouvement œcuménique, hein, Eh bien, justement, comme l'Église est si imparfaite et comme les chrétiens sont de si grands pécheurs, eh bien, de quoi s'agit-il dans tout ce mouvement d'œcuménisme, où la mission, il s'agit d'abord de se renouveler, il s'agit de convertir notre cœur. Bon, c'est vrai tout cela, c'est vrai, mais vraiment, hein, nous sommes vraiment très, très, très impurs. Et finalement, les autres sont tellement purs que nous sommes indignes d'aller leur porter l'Évangile. Oui. Donc, il faut nous renouveler intérieurement, il faut nous convertir. Et il faut prier en commun, etc., 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 etc. Bon. Quelles sont les conditions de la mission? Mais précisément, c'est encore la même chose. Les conditions de la mission, pénitence et renouvellement. Voilà. Bon, c'est vrai tout cela, je veux bien, je ne dis pas non, c'est sûr qu'il faut toujours faire pénitence, il faut toujours se convertir, c'est vrai tout cela. Mais c'est terrible, c'est que quand on parle du péché, finalement, on n'en parle qu'au sujet des chrétiens. On n'en parle jamais au sujet des autres. C'est quand même terrible, quoi. Bon, enfin. La hiérarchie de l'Église, alors nous l'avons vu tout à l'heure, rapidement, il faut accélérer un petit peu parce que je ne veux pas vous endormir. La hiérarchie de l'Église, nous l'avons dit, d'abord égale dignité de tous. Hein. Et alors, ces braves laïcs, eh bien, mes chers messieurs, mes chères mesdames, soyez heureux, vous êtes promus à un rang extraordinaire. Oui. Tout le monde nous parle, bien sûr, de la dignité et des pouvoirs des laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Bon. Mais quand je lis les paragraphes consacrés au presbytérat, on ne dit rien de tout cela au sujet du prêtre. Vous, laïcs, vous êtes rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Mais le prêtre, lui, il est le coopérateur de l'évêque. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Ah oui, ça n'est pas nié. Rien n'est nié, mais il y a des choses qui pourraient être peut-être affirmées quand même. Vous voyez, qui sont affirmées pour les laïcs. Bien, très bien, c'est vrai. Mais qui ne l'est pas pour les prêtres. Je me permets de le regretter, quand même, voyez-vous. Bon. Alors ensuite, quand on examine justement la hiérarchie de l'Église, eh bien, vous avez deux chapitres. D'un côté, vous avez le collège épiscopal, et ensuite, un autre chapitre, les laïcs. Voilà. Alors les prêtres, eux, coopérateurs de l'évêque, collaborateurs de l'évêque. Et aucun chapitre particulier consacré aux prêtres, en tant que ministres, etc., oui. Alors, bien sûr, on me dira, oh, vous êtes mauvais esprit, mais c'est l'Église enseignante et l'Église enseignée, ce qui est vrai. Alors, oui, c'est mort. Là, ça joue plus. Ça joue plus. Parce que l'Église enseignante, c'est les évêques, et l'Église enseignée, c'est les prêtres et les laïcs. D'accord? Eh oui, nous sommes membres, nous, prêtres, nous sommes membres de l'Église enseignée. Nous ne sommes pas membres de l'Église enseignante. Oui. Et pourtant, dans le collège épiscopal, on met les prêtres collaborateurs de l'évêque. Alors, on est où, nous? Du côté de l'Église enseignante ou du côté de l'Église enseignée, il faut savoir. Ben, on ne sait pas trop. Alors on n'est nulle part. Mais c'est vrai. Quand on cherche un peu la définition du prêtre, ben, elle n'y est pas. Le prêtre, ben, il est un petit peu partout. Il est coopérateur, collaborateur, il est ministre. Mais il n'y a rien finalement de consacrer spécifiquement au rôle du prêtre. Bon, je pense que c'est un peu regrettable quand même. Enfin, passons. La liturgie, les sacrements. Ah. Eh bien, sachez précisément, et c'est tout à fait logique, tout ça est parfaitement logique, hein, eh bien que le sacerdoce ministériel, donc le nôtre, voilà, le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce baptismal. Voilà. Mon sacerdoce, qui est celui du Christ quand même, est au service de votre sacerdoce. Ça n'est pas faux, complètement. Mais ça demanderait être peut-être exprimé d'une autre façon. Et c'est sûr que nous sommes là pour vous porter la grâce, c'est bien évident, c'est sûr. Hein. Vous avez ce sacerdoce commun, ce qu'on appelle le sacerdoce commun, mais qui n'est pas un pouvoir actif. Le sacerdoce commun ne vous donne pas le pouvoir d'agir, mais le pouvoir de recevoir la grâce, de recevoir les sacrements. Voyez. Alors c'est sûr que nous sommes à votre service pour vous donner la grâce, pour vous donner les sacrements. Bon, enfin voilà quoi. Hein. Et alors, ce sacerdoce commun, justement, dont nous parlions tout de suite, eh bien, quel est-il? Ce sacerdoce commun est celui du Christ, unique prêtre, participé par tous ses membres. Là aussi, j'aimerais quand même quelques petites explications. Parce que le sacerdoce du Christ, c'est un sacerdoce actif. c'est un sacerdoce, je dirais, souverainement ministériel, enfin bon, si on peut dire, ouais, qui est principal, bien sûr. Hein. C'est le sacerdoce qui agit, qui consacre, qui immole. Ouais. Et ce n'est pas le sacerdoce commun. Alors, il est vrai que le sacerdoce commun des fidèles est une certaine dérivation du sacerdoce du Christ, mais ça n'est pas le sacerdoce du Christ. Oui. Le sacerdoce commun n'est pas le sacerdoce du Christ. Ah non, ah non. Le sacerdoce du Christ, c'est le sacerdoce presbytéral, c'est le sacerdoce ministériel, oui, qui est un pouvoir d'agir, de consacrer. Vous n'avez pas le pouvoir de consacrer. Ah oui, oui. Alors tout ça est brouillé. Alors, le laïcat, bien sûr, promotion du laïcat, et je dirais, c'est sûr, c'est tout ce qui leur reste, puisqu'ils n'ont plus de prêtres. Alors, il faut bien qu'ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Hein. Alors, ils ont des laïcs, encore quelques-uns, quand même. Ouais. Le sacrement de l'Eucharistie. Ah, le sacrement de l'Eucharistie. En parlant, on dit des belles choses aussi. Alors, la messe, le sacrement de l'Eucharistie, est un sacrifice. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est un sacrifice. Comme on est content de l'entendre dire. Et c'est vrai, bon, oui, bien sûr, je vous fais ressortir plutôt ce qui n'est pas bon dans le catéchisme. Il y a quand même des choses qui sont bonnes, hein, je vous l'ai dit. Et donc le sacrement de l'Eucharistie, il y a donc un sacrifice. C'est un mémorial sacrificiel du Christ et de son corps. Et alors là, vous voyez, il y a un passage, moi qui... Je ne sais pas, j'ai peut-être mauvais esprit, mais enfin... Je ne pense pas quand même. Oui. On vous parle, alors bien sûr, voyons, on fait la relation entre la Pâque juive et le sacrifice de la messe. Dans la célébration liturgique de ces événements, ils deviennent d'une certaine façon présents et actuels. Toujours d'une certaine façon. Il faut relever un petit peu. Tiens, combien de fois ça revient cette expression? C'est effrayant. Bon. C'est de cette manière qu'Israël comprend sa libération d'Égypte. Chaque fois qu'est célébrée la Pâque, donc chez les Juifs, les événements de l'Exode sont rendus présents à la mémoire des croyants afin qu'ils y conforment leur vie. Et aussitôt, le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Et de quelle façon devient-elle présente ? Et si vous mettez en rapport les deux, chez les Juifs, elle devient présente parce qu'elle est rendue présente à la mémoire. Et là, l'Église fait mémoire de la Pâque du Christ, et celle-ci devient présente. Bon, rien n'est affirmé. Et c'est bien dommage, justement. Je préférais que ce soit affirmé, mais ça n'est pas affirmé. Alors, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Eh oui, bon. Alors, c'est un mémorial de la Pâque juive, etc., etc. Et l'Eucharistie est donc un sacrifice. Ah oui, quand même, ça. Sacrifice parce qu'elle représente le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Et ensuite, on nous parle d'intercession, d'offrande et d'intercession, mais nulle part, moi, je n'ai vu que l'on nous parle de propitiation. Voilà, action de grâce, louange, intercession, mais nulle part, hein, le sacrifice de la messe ne nous est présenté comme un sacrifice propitiatoire. Alors que le Concile de Trente nous disait, si quelqu'un dit que le sacrifice de la messe n'est qu'un sacrifice de louange et d'action de grâce, ou une simple commémoration du sacrifice accompli à la croix, mais non un sacrifice propitiatoire, anathémasite. Qu'il soit anathème. Alors, le catéchisme ne nie pas. Oui, ne nie pas qu'il soit propitiatoire. Il ne dit pas le sacrifice n'est pas propitiatoire. Mais il ne l'affirme pas non plus. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon, accélérons un peu parce que je ne veux pas trop vous lasser. La morale, alors bien sûr, vous devinez que les principes de la morale, eh bien, quoi qu'en dise le paragraphe 1698, la référence première et ultime de cette catéchèse sera toujours Jésus-Christ. Eh bien, ensuite, vous trouverez toujours comme principe et référence la dignité de la personne humaine. Quelques exemples. L'exercice de la vie morale atteste la dignité de la personne. L'avortement, qui est condamné, grâce à Dieu. Mais pour quelle raison est-il condamné? Dès le premier moment de son existence, l'être humain doit se voir reconnaître les droits de la personne. Voilà. L'euthanasie. Un meurtre contraire à la dignité de la personne humaine. La chasteté suppose le respect des droits de la personne. Bon. La pornographie porte gravement atteinte à la dignité de ceux qui s'y livrent. La prostitution porte atteinte à la dignité de la personne qui se prostitue. Tout le temps, rien à marre. Et le bon Dieu là-dedans, qu'est-ce qu'il devient, lui, misère? Bon, et on vous dira par ailleurs, quelques chapitres avant ou après, eh bien, que le péché est une offense à Dieu. Vous voyez, ce qui leur permet de se récupérer, si je les agglais. Mais vous regardez, on dit bien que le péché est une offense à Dieu. Oui, mais fichez-nous la paix, la dignité de l'homme, alors. Enfin, bon. En matière économique, le respect de la dignité humaine exige la pratique de la vertu de tempérance, de la vertu de justice et de la solidarité. Bon, allez vous y retrouver là-dedans. Moi, je ne vois pas très bien ce que ça veut dire tout ça, mais enfin, la vertu de tempérance, je ne vois pas ce qu'elle a à faire avec la dignité humaine. Bon, enfin, bon. Bon, passons. Il y aurait encore bien des choses. Alors, s'il y a encore un petit passage là, sur une chose qui apparaît, moi, qui est nouvelle, quand même, je crois, et ce qu'ils appellent les structures de péché, alors qu'ils sont condamnés. Alors, ces structures de péché, bien, c'est un petit peu tout ce qui attente, justement, ou tout ce qui limite la dignité ou les droits ou la liberté de l'homme. Voyez. Alors, ce sont les structures de péché qui induisent leurs victimes à commettre le mal. On parle d'un péché social. Les menaces pour la liberté. Ah, évidemment, ça, c'est une structure de péché. Qu'est-ce qu'il y aurait encore ? Tout système suivant lequel les rapports sociaux seraient entièrement déterminés par les facteurs économiques et contraires à la nature de la personne humaine. Bon. Un système qui sacrifie les droits fondamentaux des personnes et des groupes à l'organisation collective de la production, etc. L'Église, tenez-vous bien, l'Église a rejeté les idéologies totalitaires et athées associées dans les temps modernes au communisme ou au socialisme. Extraordinaire, conversion. Mais il a fallu attendre la chute du communisme pour le voir enfin condamné. Courage. Alors que le Concile a refusé de condamner le communisme. N'oubliez pas ça. Le Concile a refusé la condamnation, de renouveler la condamnation du communisme. Et maintenant que Gorbatchev est tombé, enfin, dit-on du moins, enfin, que tout ça est fini, plus ou moins, attention, méfiez-vous, on accepte enfin de rejeter le communisme. Oh, quel bonheur. Enfin. L'Église a rejeté cette falsification du royaume venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé intrinsèquement perverse. Vous rendez compte, allusion à Divini Redemptoris de Pie XI, condamnant le communisme. Vous rendez compte, conversion. C'est le retour à la tradition, vous dites, formidable, vous voyez. Eh oui. Alors vous voyez, dans toutes ces structures de péché, vous pouvez faire le tour. Moi, j'ai cherché partout. Eh bien, nulle part, alors vous avez tous les... Bon, il y a certaines choses sont vraies là-dedans, attention. Hein. Mais nulle part, vous n'avez, en tout cas, je dirais, le début de la suggestion, en tout cas, qu'une fausse religion puisse être une structure de péché. L'islam n'est pas une structure de péché. Le bouddhisme n'est pas une structure de péché, etc., etc., etc. Voilà, bon, ben écoutez, je crois qu'il est temps de conclure, parce que je ne veux pas trop... Il y aurait bien des choses à dire, hein. Je pense avoir dit le plus important. Vous me trouvez peut-être un peu critique, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je ne peux pas vous dire autre chose que ce qui est vrai, que ce qu'il y a dans le catéchisme. Hein. Alors, en conclusion, ben il faut répondre à la question, quand même, est-ce que ce catéchisme est catholique ? Eh bien, la réponse, je crois que vous l'avez trouvée. Moi, je dis non. Ce catéchisme n'est pas le catéchisme de l'Église catholique. Pourquoi ? Eh bien, pour quelques vérités qui sont claires, qui sont élémentaires et bien tout à fait traditionnelles. Eh bien, à savoir que, c'est un adage, je vous le dis en latin, méfiez-vous, « Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu ». Le bien, pour être vraiment bien, doit être intègre, total, parfait. Le bien ne supporte pas le soupçon de mal. Oui. Alors que le mal existe dès qu'il y a une tache. L'immaculée, elle est immaculée parce qu'elle est sans tache. Si l'immaculée a une tache, elle n'est plus l'immaculée. Eh bien, la foi catholique, c'est pareil. La foi, elle est immaculée ou elle n'est pas. Alors cette foi qui nous est proposée par ce catéchisme, que l'on nous dit être celui de l'Église catholique, n'est pas la foi catholique, car c'est une foi qui est tachée d'erreurs, d'hérésie, de blasphème même, je dirais. Alors c'est une symphonie, sans doute, comme nous le disions tout à l'heure, mais une symphonie un petit peu discordante, oui, dont les accords ne sont pas très, très, très harmonieux, très, très classiques. Oui. On a évité dans ce catéchisme, c'est vrai, ça, et c'est là, je dirais, toute la difficulté hein, de ces erreurs dans lesquelles on veut nous faire naviguer. On a évité soigneusement les hérésies anciennes ou récentes qui ont été condamnées. Vous ne trouverez pas toutes ces hérésies ariennes, nestoriennes, tout ce que voudrais-je enseigner. Vous ne les trouverez pas. Non, elles n'y sont pas. Mais vous avez une autre erreur, beaucoup plus subtile, et qui n'est pas encore condamnée, mais qui le sera un jour. Oui. Cette autre erreur qui n'a aucun fondement. Moi, je cherche partout et je ne le trouve pas. Aucun fondement, ni dans l'Écriture, ni chez les pères de l'Église, ni chez les docteurs de l'Église, ni chez les théologiens. Aucun fondement autre que l'imagination maladive de certains théologiens que l'on peut appeler le père de Lubac, Ranner, tout ce que vous voudrez, et d'autres, etc., qu'il ne vaut mieux pas nommer parce qu'ils sont encore vivants. Bon, c'est donc cette erreur qui a jailli de l'imagination, ouais, un petit peu maladive, de certains théologiens amoureux de l'homme, et qui confond justement l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Théoriquement, on distingue de les deux. On vous parlera de la nature et de la grâce. Très bien, parfait. Mais alors, concrètement, il n'y a plus de distinction entre les deux. Ouais. D'une certaine façon, tout homme est ami de Dieu. Tout homme est en état de grâce, ouais, etc. Ouais. Dieu, d'une certaine façon, ouais, et ça c'est vrai, Dieu veut le salut de tout homme. Dieu peut le salut de tout homme, donc Dieu ne doit pas refuser sa grâce à qui que ce soit. Dieu ne peut pas refuser sa grâce à qui que ce soit, puisqu'il veut le salut de tout homme. Oui. Eh bien, moi, je suis désolé, mais en dehors de l'Église et des sacrements, en dehors de ce que me dit l'Écriture sainte, de ce que me dit la tradition, de ce que me dit l'Église, moi, je ne sais pas ce que Dieu fait ou ne fait pas. Moi, je sais ce qu'il fait dans l'Église, je sais les effets des sacrements, je sais les effets de tout ça, très bien, oui. Mais en dehors de ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je n'imagine pas. Et je ne vais surtout pas dire à quelqu'un qui n'est pas catholique et qui n'a pas la foi catholique, parce que je n'en suis pas sûr du tout, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, continuez comme ça, Dieu vous aime, Dieu vous sauvera. Je ne peux pas lui dire ça. Ce serait manquer à la charité gravement que de lui dire ça. Alors je vais lui dire, mais écoutez, moi je ne suis pas du tout sûr de votre salut, moi. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Mais si vous voulez être sûr de votre salut, eh bien, ce sera plus facile quand même dans l'Église. Avec les sacrements, avec la messe... Le salut est quand même mieux assuré. Là, vous recevrez tout un tas de secours du bon Dieu qui sont sûrs, qui sont certains et qui vous aideront à sauver votre âme. Mais en dehors de ça, j'en suis pas sûr. Peut-être, mais c'est pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Alors que là, je dirais, le catéchisme rassure finalement tous ceux qui ne sont pas catholiques. Ne vous cassez pas la tête. Vous cassez pas la tête. Continuez comme ça. Si vous pouvez venir à l'Église, bon, bah, souvenez-y, si vous voulez, si vous y tenez. Mais il ne faut surtout pas que ça vous casse le problème. Ouais. Faut pas faire une histoire, quoi. Surtout pas. Ouais. Quant à vous, les catholiques, hein, du calme. Hein, bon, commencez par vous convertir. Et puis n'allez pas trop embêter les autres. Hein, voilà, hein. Pas de prosélytisme comme ça, indiscret. Hein, fichez un petit peu les autres. Respectez leur conscience. Aimez-les tels qu'ils sont. Sinon, c'est à vous qu'il va arriver des histoires. Hein, hein, c'est... Finalement, en enfer, il n'y a peut-être que des catholiques. On ne sait jamais. Moi, je ne sais pas. Enfin, bon, soyons pas trop méchants, quand même. Eh, mais c'est grave, ça, eh, c'est grave. Et c'est de ça que nous mourons aujourd'hui. Hein. C'est de ça que l'Église meurt. Bon, si l'Église peut mourir, elle ne mourra pas, grâce à Dieu. Hein. Mais c'est ça, je dirais, qui fait la mort des âmes aujourd'hui. Hein. Eh oui, c'est une sorte d'hérésie nouvelle, oui, sur cette question d'un rapport, le rapport entre la grâce et la nature. Et alors, moi, cette symphonie, moi je n'ai pas du tout envie de la chanter, envie de la jouer avec eux. Et finalement, je dirais, c'est une sorte de... Vous voyez, c'est ce catéchisme, hein, je cherchais un petit peu comment le difficile à bien le résumer, mais on pourrait dire que c'est une extase. C'est l'extase conciliaire devant la splendeur de l'homme. L'extase conciliaire devant la... Attention quand même, on ne sont pas trop méchants. L'extase conciliaire devant la beauté de Dieu, quand même, et la beauté de son œuvre. et surtout la beauté de l'homme. Voilà, l'extase. Alors, c'est vrai, il y a des... et tout n'est pas faux, et c'est ça justement qui rend l'affaire difficile à bien cerner, c'est que tout est mêlé. Et c'est très déroutant, il y a de quoi perdre la foi, hein. Il y a de quoi perdre la foi. Hein. On peut dire, c'est un petit peu, je ne veux pas avoir l'air de singer une de nos plus belles prières, mais c'est un petit peu, c'est eux en fait qui singent. Oui. Ça serait un petit peu une sorte de prière au monde, prière à l'homme. Je vous salue, monde plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est affreux, dégoûte-moi. C'est donc un catéchisme, moi, il n'y a pas de problème, hein, c'est un catéchisme non catholique. C'est celui, et ça n'est pas de moi, si je finirai avec une citation de Saint Pédis, tirée de sa lettre sur le Sillon, notre charge apostolique. C'est le catéchisme d'une, et Saint Pédis qui parle, d'une religion plus universelle que l'Église catholique, réunissant tous les hommes devenus enfin frères et camarades dans le règne de Dieu. On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité. Je crois qu'il n'y a pas de plus belle définition de la pensée qui émane de ce catéchisme. Amen. Si vous avez des questions à poser, on ne sait jamais. Alors, c'est rapide, hein, c'est sommaire peut-être, c'est un peu brutal, mais si vous voulez, hein, 600 pages, voyez, il faudrait une semaine entière, ouais, pour le disséquer, vous l'exposer. Mais ne l'achetez pas, hein, ne perdez pas votre argent à l'acheter, sauf peut-être, à la limite, je dirais, par souci documentaire, hein, pour l'étudier, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, mais ne l'achetez pas pour vous instruire, en tout cas, certainement pas, hein, ça c'est... Bien, eh bien, ma foi, alors, bon courage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Amen. Saint Pédis, Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.